Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Merci de nous rejoindre pour votre grand journal. Deuxième saison, nous sommes le dimanche 6 septembre et à la une, une quatorzaine raccourcie, des bars autorisés à fermer plus tard et pourtant, 7 nouveaux départements en zone rouge. Le virus circule de plus en plus. On va éclaircir ce soir la situation avec l'épidémiologiste Martin Blachier. Dans 10 minutes, on reparle de cette rentrée politique du Rassemblement National. Un discours de combat pour Marine Le Pen sur l'insécurité. Elle dénonce la barbarie qui s'installe dans le pays et veut réveiller les Français. Mais avec quelles troupes et quels projets? Le porte-parole du mouvement Sébastien Chenu est mon invité. 19h30, on refait l'actu avec les grandes voix d'Europe 1. 19h40, une chanson dans la tête.
Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut.
C'est la voix de Grégory Le Marchal qui nous accompagne ce soir. Fabien Lecoeuvre revient sur la carrière fulgurante de ce talent disparu à 23 ans, auquel TF1 consacre un biopic dès demain. On écoute Le Monde changer avec plusieurs questions ce soir, le débat, de la culture, toute l'actualité évidemment. C'est une partie de ce sommaire jusqu'à 20h. J'accueille d'abord pour vous informer Fabienne Lemoyle car il est 18h. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Merci de votre écoute et de votre fidélité. Voici l'info.
Aujourd'hui, je gagne le Grand Prix de Monza, c'est incroyable, honnêtement, je ne sais pas quoi dire, j'ai aucun mot. C'est...
24 ans qu'un Français n'avait pas remporté un Grand Prix de Formule 1, c'est donc lui, Pierre Gasly, qui conjure le sort sur le circuit de Monza, nous sommes en Italie.
100 000 masques transparents en cours de fabrication à la demande de l'État, ils sont appelés à être plus largement utilisés qu'en classe de maternelle.
Soyons patients, 2 ans, c'est l'engagement pris sur Europe 1 par Bruno Le Maire pour retrouver le niveau économique d'avant la crise, le ministre qui a rassuré aussi les petites entreprises.
Et puis nous irons à Fréjus, vous en parliez, où Marine Le Pen a fait son grand discours de rentrée en dénonçant notamment le chaos sécuritaire.
Vous êtes à l'écoute d'Europe 1, le grand journal jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On salue d'abord la victoire de ce Français en Formule 1, Fabienne.
Et Pierre Gasly qui vient de remporter donc le Grand Prix d'Italie sur le circuit mythique de Monza, Jean-François Pérez. 24 ans qu'on n'avait pas vu cela.
Voilà, on parle anglais en Formule 1, mais c'est bien Pierre Gasly que vous entendez. Cela faisait exactement 24 ans, 3 mois et 18 jours qu'un Français n'avait pas remporté un Grand Prix de Formule 1. C'était Olivier Panis à Monaco. On désespérait de lui trouver un successeur et cela arrive au moment où on s'y attendait le moins, au fil d'une saison archi-dominée par Lewis Hamilton. C'est donc lui, Pierre Gasly, il n'avait que 3 mois quand Panis s'était imposé, pilote de l'écurie italienne Alfa Tauri, ex Toro Rosso, très apprécié dans le petit monde de la Formule 1, ancien grand espoir, plusieurs fois promu, plusieurs fois déclassé. L'an passé, la grande équipe Red Bull ne voulait plus de lui. Alors direction la petite filiale Alfa Tauri et au terme d'une course folle cet après-midi marquée par les abandons des deux Ferrari puis la pénalité infligée à Lewis Hamilton. Pierre Gasly, le Normand, qui s'impose avec beaucoup d'autorité devant Carlos Sainz Jr., l'Espagnol, qui lui aura disputé la victoire jusqu'au bout. C'est la fin d'une trop longue attente, d'une trop longue disette pour les pilotes français en Formule 1. Ce soir, sur le circuit de Monza, on a enfin entendu la Marseillaise grâce à ce Rouennais de 24 ans. Pierre Gasly, 13e pilote français vainqueur d'un Grand Prix.
Voilà, et on espère qu'on entendra un petit peu plus souvent au cours de la saison. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, vous retrouvera dans quelques minutes pour le journal des sports.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Petit changement à venir pour les élèves de maternelle notamment, qui devraient enfin voir dans les prochaines semaines les lèvres de leurs professeurs.
La secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé ce matin dans le journal du dimanche que 100 000 masques transparents étaient en cours de fabrication, un usage qui est appelé à se développer, Diane Berger.
Effectivement, le gouvernement compte en distribuer non seulement aux enseignants qui ont des élèves malentendants ou qui travaillent avec des tout-petits, mais aussi à terme à tout agent qui accueille du public. Alors, pour faire face à cette explosion de la demande, le secrétariat d'État aux personnes handicapées a retenu 5 modèles de masques transparents, dont l'un produit par APF Entreprises. Son directeur national, Serge Widavski, se réjouit de la nouvelle.
Voir l'expression du visage d'un professeur qui déroule son cours, pour des enfants en particulier, ou pour des personnes autistes, juste à titre d'exemple, mais peut-être finalement pour tout le monde, il y a quand même, d'une part pour les uns, une absolue nécessité de voir les lèvres, mais pour les autres, il y a quelque part aussi d'autres messages à capter. L'expression de visage fait partie de l'éducation, c'est évident.
Lui-même confie qu'il ne s'attendait pas à un marché pareil quand son modèle de masque transparent a été créé courant juillet. Il estime qu'on lui a demandé depuis plus d'un million de masques. En comparaison, sa production est largement insuffisante pour l'instant. Elle tourne autour des 80 000 masques par mois. L'APF Entreprise compte donc s'adapter et se rapprocher d'autres structures pour multiplier par 5 son activité d'ici 15 jours.
Diane Berger.
À la une, et c'était ce matin sur Europe 1, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'engage. Il annonce que dans 2 ans, nous retrouverons le niveau d'avant la crise grâce au plan de relance qu'il a présenté jeudi.
Le ministre de l'économie qui a affiché son optimisme au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Il a aussi voulu rassurer les petites entreprises, Olivier Sama, en annonçant qu'elles ne seraient pas matraquées par le remboursement des prêts garantis par l'État.
Oui, il y a une crainte qui monte du côté des petites entreprises. En avril et en mai, 600 000 d'entre elles ont souscrit un prêt garanti par l'État. Le taux de ce prêt, c'était 0,25%, mais pour un an. Aujourd'hui, beaucoup font le constat qu'elles vont devoir prolonger la durée du prêt et s'inquiètent d'une hausse du taux que leur demanderont les banques. N'ayez crainte, leur a répondu ce matin le ministre de l'Économie.
Je veux les rassurer, nous avons obtenu de la part des banques un taux qui sera compris entre 1 et 2,5% au maximum. Deux précisions très importantes. Ce taux d'intérêt, il inclut la garantie de l'État. La deuxième chose qui est absolument essentielle, c'est que les entrepreneurs ne sont pas engagés sur leurs biens individuels. Quoi qu'il arrive, on ne va pas aller saisir leurs biens comme ça pourrait être le cas dans une autre forme de prêt.
Alors dans les faits, les banques acceptent de facturer aux entreprises le remboursement des prêts à prix coûtant. Bercy précise ce soir que pour les TPE-PME qui choisiront de rembourser au plus tard en 2023, le taux ne dépassera pas 1 à 1,5%. Celles qui rembourseront au-delà, jusqu'en 2026, puisque c'est la date limite pour le remboursement de ces prêts, eh bien ces entreprises-là ne paieront pas plus de 2 à 2,5%, promet le gouvernement.
Les précisions d'Olivier Sama du service économie d'Europe 1.
On reviendra sur ce plan de relance, sur les perspectives de réenchantement quelque part de Bruno Le Maire tout à l'heure, interrogé par Mickaël Darmon, qui sera l'une de nos grandes voix à partir de 18h30, aux côtés de Laetitia Crépa et de Philippe Moreau-Chevrolet ce soir.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
À suivre dans le journal de Fabienne Lemoyne, la rentrée politique, la rentrée du Rassemblement National à Fréjus, avec ce slogan martelé par Marine Le Pen, français, réveillez-vous.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et Fabienne Lemoyne pour le journal, il est 18h08 sur Europe 1. C'était aujourd'hui dimanche la rentrée pour le Rassemblement National, tout le week-end en réalité, à Fréjus. Et en clôture des universités d'été du mouvement, eh bien, c'est la présidente du RN qui a pris la parole.
Avec, vous l'avez dit, un slogan français, réveillez-vous. Marine Le Pen a consacré la très grande partie de son discours au thème sécuritaire, Claudia Bertram.
Oui, sans surprise, Marine Le Pen a profité de l'actualité pour reprendre en longueur son thème fétiche. Après l'été qu'elle qualifie de meurtrier, elle dresse le bilan d'une ultra-violence de la société.
C'est une véritable barbarie qui s'installe. Avec la barbarie, on ne négocie pas, on la combat.
La présidente du RN s'est montrée offensive, détaillant toute une série de mesures. Elle s'engage sur une triple certitude vis-à-vis des délinquants.
La certitude des poursuites, la certitude des sanctions, la certitude de l'exécution de la peine et de la réparation due aux victimes. L'impunité, c'est fini. Les peines fictives, c'est fini. La prison-garderie, c'est fini.
Face à un public restreint d'élus et de quelques militants des environs, la candidate déclarée à la présidentielle étrit le gouvernement, plus occupé à faire croire qu'à faire, dit-elle, et elle attaque bille en tête le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti.
Le ministre de la Justice, lui, ne voit dans les inquiétudes des Français qu'une dérive populiste, un sentiment d'insécurité, un fantasme. Dupond-Moretti, c'est Taubira en pire.
Marine Le Pen qui fustige aussi dans son discours le plan de relance du gouvernement et avec son slogan de rentrée français réveillez-vous affiché derrière elle, Marine Le Pen a appelé les électeurs et surtout les abstentionnistes à voter pour elle en 2022.
Claudia Bertram.
Discours de combat, mais avec quelle armée, quel projet? Eh bien le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenouille, est avec nous depuis Fréjus sur Europe 1 à 18h20. 2 soldats français ont donc été tués au Mali dans l'explosion d'une bombe artisanale qui a touché leur engin blindé. C'est l'Élysée qui l'a annoncé hier soir, Fabienne.
Un troisième homme a été grièvement blessé. Tous faisaient partie, Damien Mestre, des forces de l'opération Barkhane déployées au Sahel.
Oui, tout devenait du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, déjà endeuillé en juillet dernier durant une autre opération au Mali. L'un des 2 soldats, Arne Volpe, n'avait que 24 ans. C'était sa toute première opération extérieure, 1 an après à peine son arrivée à Tarbes. Ils ont perdu la vie quand leur véhicule blindé a heurté une bombe artisanale. Des bombes qui font partie du quotidien des soldats de Barkhane. C'est le colonel Antoine de Labretoigne, le chef chef de corps du 1er régiment parachutiste de Tarbes qui nous l'explique.
L'utilisation d'engins explosifs improvisés fait partie des modes d'action de l'ennemi, on le sait. Nos soldats sont sensibilisés, formés à lutter contre cette menace et on cherche à s'en préserver au maximum. Mais bien sûr, vous savez, dans notre métier, le risque zéro n'existe pas.
Un risque qui a tout de même coûté la vie à 45 soldats français depuis 2013. Certaines voix s'élèvent donc aujourd'hui pour remettre en cause la présence française au Mali. C'est le cas à la France Insoumise, par exemple. Face à cela, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a déjà indiqué qu'il n'était, je cite, pas question de lever la garde.
Damien Mestre.
Et puis tous les dimanches soirs, désormais, on vous emmène en Outre-mer. Ce soir, en Nouvelle-Calédonie, exactement, avec notre radio partenaire RRB.
Dans un mois, le 4 octobre, aura lieu le deuxième référendum d'autodétermination. Le premier, il y a 2 ans, avait donné à 56% la victoire aux partisans du maintien du territoire dans la France. Ambiance beaucoup plus tendue pour ce nouveau scrutin, qui a été retardé à cause du Covid, comme l'a constaté à Nouméa Elisabeth Noir.
La campagne sur le terrain est plutôt calme, mais les états-majors politiques sont en ébullition et les points de crispation se sont multipliés. Dernière polémique en date, la validation par le Conseil d'État de l'utilisation du drapeau français par le camp loyaliste. Michael Forest, membre de l'équipe de campagne du FLNKS, dénonce la partialité de l'État.
C'est pour ça qu'on a réactivé aussi nos réseaux au niveau du Pacifique, au niveau des Nations Unies, pour pouvoir faire en sorte que l'accord de Nouméa soit respecté en totalité, en tous les cas, que l'acte d'autodétermination soit sincère et transparent.
Les loyalistes, de leur côté, s'agacent de ces polémiques et ils sont satisfaits de pouvoir utiliser le drapeau tricolore. Virginie Ruffnac, de l'Avenir en Confiance.
On voit aujourd'hui l'État qui joue son rôle de garantie des grands équilibres calédoniens en permettant aux deux camps librement d'utiliser leurs emblèmes, heureusement, et ça incite, je crois, encore plus les Calédoniens qui douteraient éventuellement, le 4 octobre prochain, à voter non et à rester au sein de la France.
Les indépendantistes critiquent également le document publié par l'État sur les implications du oui et du non à l'indépendance, en estimant que le travail a été bâclé. Mais ces escarmouches sont aussi la traduction d'un climat tendu, alors que le dialogue politique est plus que jamais au point mort.
Elisabeth Noir à Nouméa, la chronique La France, c'est grand. Pour prolonger ce reportage, vous la retrouvez tous les dimanches à 6h20 et sur Europe1.fr.
C'était le journal de Fabienne Lemoyle à samedi midi pour le journal et pour tout terrain.
Merci, avec grand plaisir.
Fabienne. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Allez Valérie Darmon, vous allez tenter de rééclairer notre ciel. Qu'est-ce que ça donne demain dans nos régions? On vous écoute.
Eh bien, de la Bretagne aux Hauts-de-France, les nuages sont toujours assez envahissants, mais le risque d'averse est plus limité et se cantonne surtout au bord de mer. Pays de la Loire, Bordelais, Grand Est, Auvergne, Rhône-Alpes, le ciel hésite entre nuages bas et éclaircies en matinée, et puis le soleil va s'imposer sans vraiment faire grimper tout de même les températures. Du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie, Provence, Basse-Vallée du Rhône, Languedoc, jusque dans l'Aude, c'est là qu'il fera le plus beau, même si les orages se développent sur les Pyrénées en soirée, tout comme d'ailleurs sur le sud des Alpes, jusqu'aux Alpes-Maritimes et en Corse. Les températures maximales de ce lundi, entre 19 à Boulogne-sur-Mer et 29 à Montpellier, 22 à Caen, 23 à Rennes, 24 à Besançon, 25 à Paris et Bordeaux et 27 à Nice.
Merci Valérie. Allez, toute l'actualité des sports, on l'a déjà anticipé avec cette très belle victoire, oui. Jean-François Pérez, la victoire de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie de Formule 1, mais on vous en parle plutôt deux fois qu'une ce soir.
Eh oui, puisque après avoir entendu sa rage au volant de son Alfa Tauri, voici ses premiers mots au micro du diffuseur officiel de la Formule 1 Canal+. Pierre Gasly, premier pilote français, vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1, 24 ans après Olivier Panis en 1996. 96, c'était l'année de naissance de Pierre Gasly. Pouvait-il en être autrement? Le Normand, en tout cas, n'en revient toujours pas.
C'est incroyable, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. J'ai aucun mot à part remercier toute l'équipe, tous ceux qu'on travaille pour rendre ça possible. Dans les 18 derniers mois, il m'est arrivé des trucs de fou. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On s'est toujours battu, on s'est toujours concentré sur nous-mêmes, à essayer de s'améliorer jour après jour. Et aujourd'hui je gagne le Grand Prix de Monza, c'est incroyable. Je voudrais remercier tous les gens pour tous les messages et de soutien depuis que je suis arrivé en F1. Et voilà, maintenant, il va falloir continuer. Mais c'est là, j'ai juste envie de profiter du moment.
On va le laisser profiter. Après un premier podium au Brésil, Pierre Gasly a donc touché le Graal cet après-midi. Vous entendrez à 19h l'ancien pilote français, Jacques Lafitte. Il n'y a que 13 pilotes français, Wendy, à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1. Le premier, c'était Maurice Trintignant. Jacques Lafitte en fait partie. C'est désormais également le cas de Pierre Gasly. On retrouve bien Pierre Gasly et toute la Formule 1 dès la semaine prochaine. Ce sera sur le circuit du Mugello. On reste en Italie pour le Grand Prix de Toscane.
Autre circuit ce soir, celui du Tour de France évidemment. 9e étape aujourd'hui, la dernière dans les Pyrénées et ce sont les Slovènes qui ont tout raflé.
Oui, l'étape sur le fil pour Tadej Pogacar, le maillot jaune pour Primoz Roglic, vainqueur du Tour d'Espagne l'an passé. C'est l'un des plus beaux jours de la jeune histoire sportive de ce pays de 2 millions d'habitants coincé entre l'Italie, la Croatie et l'Autriche. Dimanche beaucoup plus cruel en revanche pour le Suisse Marc Hirschi qui avait fait toute la course en tête avant d'être repris à 2 km de l'arrivée. Quant aux Français, mention bien pour Martin et Bardet qui limitent la casse face à l'impressionnant duo venu de l'Est, Axel May.
Oui, la Slovénie à la fête, victoire de Pogacar, maillot jaune pour Roglic, un maillot que le leader de l'impressionnante équipe Jumbo-Visma pourrait garder jusqu'à Paris avec un final cruel ici à la Reims pour le Suisse Hirschi, à plus de 90 km en tête et qui finit troisième derrière les deux Slovènes. Alors Pogacar, énormément de talent, 21 ans, premier Tour de France. Quant à Roglic, vainqueur du Tour d'Espagne l'an dernier, il a 30 ans, ancien sauteur à ski, visage souvent fermé et un surnom Rogla, du nom de la Mota, montagne slovène, dans la région où il est né. Il s'était imposé mardi à Orsières-Merlette, devant, devinez qui, Pogacar. Cette fois, il finit deuxième, mais revêt le maillot jaune. Et au classement général, on notera que Roglic est devant Bernal, suivent Martin, Bardet, puis Quintana, Uran, Pogacar septième. Yates, l'ancien maillot jaune, est désormais huitième à plus d'une minute, mais en 45 secondes, on a trois Colombiens, deux Français et deux Slovènes. Quant à Thibaut Pinot, il est arrivé avec 9 minutes de retard à Alaphilippe avec près d'une demi-heure. Demain, ce sera journée de repos. Le peloton qui part ce soir en car et en voiture d'équipe jusqu'à La Rochelle.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Dans le reste de l'actualité sportive, Jean-François Pérez, le rugby.
Oui, la fin de la première journée du top 14. Deux affiches, Brive-Bayonne, 20h45. Et le choc Clermont-Toulouse qu'on suivra en fil rouge dans Europe 1 Sport ce soir à partir de 21h. On rappelle les victoires de La Rochelle, de Castres et du Racing hier soir. Enfin, tennis, Alizé Cornet est la dernière française en lice à l'US Open. La française menée au score quand son adversaire, l'américaine Madison Keys, a été contrainte à l'abandon. Cornet qualifiée pour les huitièmes de finale de l'US Open pour la première fois de sa carrière à 30 ans. Ce sera demain soir face à la Bulgare Pironkova.
Et on vous retrouve à 19h10, Jean-François Pérez sur Europe 1 pour l'espoir. À tout à l'heure.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h18, au soir de la rentrée politique de Marine Le Pen à Fréjus, de l'ensauvagement de la société. Il en fut question dans son discours jusqu'à la crise économique, évidemment, des sujets porteurs pour le Rassemblement national. Mais avec quelles troupes et quels projets pour 2022? On va retrouver sur place le porte-parole du RN, Sébastien Chenu. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous êtes à l'écoute du Grand Journal sur Europe 1, 18h20. Cet après-midi, Marine Le Pen a conclu les universités d'été du Rassemblement National avec un discours de combat et une description de la société qui ne laissera personne indifférent.
On est en droit de se demander ce qu'est devenu notre pays. Vers quel abîme roule-t-il lorsque dans le même temps tout est fait pour neutraliser l'action des forces de l'ordre, les diffamer et les fragiliser. Bref, c'est une véritable barbarie qui s'installe. Avec la barbarie, on ne négocie pas, on la combat.
Bonsoir Sébastien Chenu.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole du Rassemblement National et on vous retrouve en duplex de Fréjus. C'est donc la peur qui sera votre meilleure conseillère ?
Oh non, pas du tout. Vous savez, je crois que s'il y a bien un mouvement d'ailleurs politique qui n'a pas peur et qui dit la vérité aux Français, qui n'a pas besoin d'en rajouter, c'est le nôtre. Nous avons, comme les Français d'ailleurs, les yeux grands ouverts sur la réalité de notre pays qui traverse, il faut bien le dire, des crises. Elles sont économiques, elles sont sanitaires, mais aussi une forte crise liée à l'insécurité montante qui s'est aggravée de façon exponentielle ces dernières années, en particulier d'ailleurs sous le mandat d'Emmanuel Macron. Et comme je vous le disais, les Français ont les yeux ouverts, ils vivent des choses difficiles dans leur quartier, dans leur vie quotidienne, partout en France. Il faut s'attaquer à cette insécurité car elle pourrit tout.
Et des comportements barbares, Sébastien Chenu, font-ils pour vous une barbarie qui s'installe? Il y a des actes inqualifiables, on les connaît, il y a une impunité, mais l'amalgame est-il de mise aujourd'hui dans ce discours qui doit apaiser aussi les Français?
Je crois qu'il faut dire les choses. Mal nommer les choses ajoute aux maux du monde. Vous connaissez la citation d'Albert Camus. Il faut dire la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Ce n'est pas en essayant de relativiser, en essayant de mettre de côté ou de fermer les yeux qu'on réussira à régler les problèmes. Au contraire, en les identifiant, en connaissant les origines, en sachant comment les combattre, eh bien, on va gagner à la fois en rapidité et en efficacité. Alors... Ce qui s'est passé cet été a été catastrophique dans notre pays. Et ce n'est pas le fait du hasard.
Il y a cette réalité insécuritaire qui est largement aussi partagée par la droite ou par la gauche. Le fait que l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy, reprenne ce terme qui est apparu dans les discours de Marine Le Pen dès 2013, est-ce que cela, aujourd'hui, justifie la surenchère qu'on peut dénoncer lorsqu'on entend un certain nombre de discours de votre présidente, Sébastien Chenu ?
D'abord, il n'y a pas de surenchère. Nous disons sur ce sujet la même chose depuis très longtemps. Nous le dénonçons depuis très longtemps. Et je dois dire simplement que si aujourd'hui Gérald Darmanin parle, tout comme toute la classe politique, d'ensauvagement ou de racaille, c'est que ce que nous disons depuis si longtemps avec ces mots-là, exactement ces mots-là, est donc la réalité. Le problème, c'est que nous avons vu tous ces gens à l'œuvre. Monsieur Darmanin aujourd'hui, mais hier c'était la droite, avant-hier c'était la gauche, et inversement, ils parlent mais ils n'agissent pas. Et d'ailleurs, la nomination d'Éric Dupond-Moretti à la justice nous montre qu'il n'y aura aucun résultat.
C'est votre nouveau bouc émissaire, Éric Dupond-Moretti, qui a été largement cité par Marine Le Pen et qui est dans une sorte de passe d'armes désormais avec elle. Sur les réseaux sociaux.
Pas besoin, vous n'avez pas besoin de bouc émissaire. Et Éric Dupond-Moretti est le garde des Sceaux. Il assume un certain nombre de positions politiques qu'on connaît, qui sont extrêmement laxistes. Il les a assumées avant d'être garde des Sceaux. Il les revendique aujourd'hui en tant que garde des Sceaux. Eh bien, moi, je vous dis qu'à partir du moment où le maillon judiciaire, le maillon de la justice est défaillant dans notre pays, car confié à Éric Dupond-Moretti, car il n'y a pas de volonté d'aller plus loin, eh bien, il n'y aura pas de résultat. Monsieur Darmanin peut se balader dans toute la France, faire tous les tweets qu'il veut. La situation s'est aggravée et depuis sa nomination, d'ailleurs.
Sébastien Chenu, vous voulez que les Français avec Marine Le Pen prennent conscience de cet ensauvagement, mais ces Français ont élu aussi en juin des maires pour les protéger. Vous, au Rassemblement National, vous avez perdu la moitié de vos conseillers municipaux. C'est ça aussi la réalité de terrain.
Alors, je ne vois pas bien le rapport entre le résultat d'une élection municipale impactée par le Covid et
un
le
maire
gain d'ailleurs
est là
de
pour
cette...
protéger ses administrés.
Le gain de cette grande mairie de Perpignan et la réélection des maires du Rassemblement National qui ont donc eu des résultats en matière de sécurité dans leur commune, sinon ils n'auraient pas été réélus.
Oui, mais il y a 35 000 communes en
France aujourd'hui. Oui, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est le maillon de l'État qui est manquant. Des maires se débattent avec, pour certains qui acceptent ou qui souhaitent ou qui démultiplient une police municipale est une réalité. Et beaucoup de maires essayent de lutter contre l'insécurité. Mais ils le font avec d'abord les moyens qui sont les leurs, mais surtout, il manque, et j'en reviens aux propos que j'avais auparavant, le chaînon de la justice qui est particulièrement déficient dans notre pays. Si je devais revenir sur les places de prison promises par Emmanuel Macron et qui ne sont pas créées, sur le budget de la justice qui est toujours inférieur à 3% du budget de l'État, etc., etc., eh bien vous apercevez que malheureusement tous les acteurs de terrain peuvent se mobiliser et certains le font avec beaucoup de conviction et beaucoup de courage. Malheureusement, si le chaînon de la justice est manquant et il est manquant dans notre pays, alors le résultat ne peut pas être à la hauteur car vous retrouverez le lendemain de leur arrestation le délinquant, la racaille, la personne qui a violé, qui a tabassé, eh bien vous la retrouverez le lendemain, quelques semaines après, sur le terrain qui recommencera.
Oui, ça veut dire que ce sera la structure essentielle de votre projet pour 2022, cette redéfinition de la justice en France, ce redéploiement aussi sans précédent des forces de l'ordre et un recrutement qui ira avec, Sébastien Chenu ?
Alors vous savez, c'est d'abord une volonté politique et des moyens. Je crois que ce gouvernement n'a pas la volonté politique parce qu'Emmanuel Macron ne s'est jamais intéressé à ces sujets-là, qu'il a méprisé intellectuellement. Je pense que ça ne l'intéresse pas, ça ne mobilise pas et il n'a pas mis les moyens en conséquence. Nous, nous affichons la couleur, il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise avec Marine Le Pen. Nous souhaitons protéger les Français. On souhaite protéger leur identité, leur santé, mais également leur sécurité. Et nous considérons qu'effectivement, cette justice aujourd'hui, elle est laxiste. Ça peut s'expliquer par la formation d'un certain nombre de magistrats, tous issus d'un même moule idéologique. Ça peut s'expliquer par l'absence de peine de prison effective. Nous, nous avons des propositions, des solutions. Nous comptons les développer, les proposer aux Français.
Pour 2022, on passe au-dessus de l'échéance des départementales et des régionales qui sera sans doute plus compliquée pour votre parti, Sébastien Chenu.
Je ne sais pas ce qui peut vous faire dire que ces échéances pourraient être plus compliquées pour nous.
Le manque d'effectifs peut-être et de candidats, oui.
d'effectifs est scandé à non. Je crois qu'on n'a jamais eu de problème à proposer des listes régionales. Je ne sais pas d'où ça sort, ça, mais enfin bon, il faudra nous l'expliquer. Simplement, ce sera en décalage total d'expliquer aux Français aujourd'hui qu'on va désigner des candidats au régional et au départemental, alors qu'ils sortent d'un été qui a été dramatique en termes de sécurité, qu'ils s'inquiètent pour leur santé, qu'ils s'inquiètent pour leur boulot et leur économie, et qu'ils s'inquiètent pour leur sécurité. On n'est pas là pour désigner aujourd'hui des candidats. Ils sont chez nous prêts, ils sauront se présenter au moment voulu devant les électeurs avec leurs projets pour leur région. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Français ont d'autres préoccupations en tête et on peut les comprendre.
Elle ne craint personne, Marine Le Pen, pour terminer. Elle a raison, Sébastien Chenu ?
Oui, pourquoi voulez-vous qu'elle craigne quelqu'un ? Marine Le Pen apparaît aujourd'hui avec sa troisième candidature aux élections présidentielles probablement comme la plus solide et la plus cohérente. On peut ne pas être d'accord avec Marine Le Pen, on peut la combattre, mais le fait que Marine Le Pen soit solide et cohérente, qu'il n'y ait pas tromperie sur la marchandise avec Marine Le Pen, c'est indéniable.
Elle peut se craindre elle-même qu'on fasse le second tour de l'élection présidentielle en 2017, mais elle a changé.
Vous savez, je crois que lorsqu'on tombe et qu'on se relève, eh bien, on en tire quelque chose. Marine Le Pen est une femme expérimentée. Elle est tombée, elle s'est relevée, elle est d'une solidité incroyable, elle est cohérente, c'est à peu près, et courageuse. C'est à peu près tout ce qui manque à l'actuel président de la République.
Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National en duplex de Fréjus. Merci de votre présence ce soir en cette clôture des universités d'été de votre parti. Bonsoir.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Dans deux minutes sur Europe 1, l'essentiel de l'info et puis le débat des grandes voix. Ils arrivent, ils sont là, le match du jour dans la presse. Édouard Philippe contre Emmanuel Macron. On reparlera de 2022, quel sera l'homme de la droite. Mickaël Darmon, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet sont avec nous.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h31, si vous nous rejoignez sur Europe 1, bienvenue, voici l'essentiel de l'info. Sophie Tussaud, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Plus de 7000 nouveaux cas de contamination au coronavirus détectés ces dernières 24 heures en France. 7 nouveaux départements en zone rouge, 28 au total. Ce qui signifie que face à la circulation du Covid, des mesures renforcées peuvent y être adoptées. Beaucoup de questions autour de la réduction de la période d'isolement en cas de suspicion, en cas de contamination. Hier, Olivier Véran se prononçait pour une réduction de la quatorzaine. Le ministre de la Santé a demandé au Conseil scientifique de rendre un avis sur cette durée. Les entreprises qui souhaitent prolonger la durée de leur prêt garanti par l'État bénéficieront de taux bancaires particulièrement avantageux, annonce de Bruno Le Maire sur Europe 1. Cinquième dimanche de mobilisation contre le président Loukachenko en Biélorussie. Des dizaines de milliers de manifestants, malgré un impressionnant déploiement des forces de l'ordre. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Puis en Formule 1, la victoire du Français Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie à Monza, une première depuis 24 ans.
Merci Sophie, voici la météo Valérie Darmon, le temps de la semaine, on vous écoute et on l'attend.
Eh bien, de Brest à Lille, vous connaîtrez un ciel variable et sans pluie. Des Pays de la Loire au bassin aquitain jusqu'aux Ardennes et de l'Auvergne jusqu'au Lyonnais. Après la dissipation des grisailles du matin, le temps sera plutôt sec et ensoleillé. Sur les reliefs des Pyrénées jusqu'aux Alpes, attention aux averses orageuses qui restent possibles. Baisse des températures au programme aussi avec 5 à 12 degrés en moyenne le matin. L'après-midi, des maximales qui s'échelonneront de 18 en bord de Manche sous les nuages à 28 sur le bassin aquitain, 25 en région parisienne, 26 à 27 en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc à partir de mardi après-midi, nous connaîtrons des valeurs d'un niveau de mois de juillet pour les maximales, bien évidemment.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Voici notre nouveau rendez-vous. Comme en semaine, les grandes voix d'Europe 1, trop pressées de les annoncer jusqu'à 19h. Elles sont avec nous pour cette actualité en débat. Ils vous accompagnent avec leurs réactions, mais aussi leur analyse, leur coup de gueule, leur coup de cœur. La journaliste politique Laetitia Krupa, le spécialiste en communication, prof à Sciences Po, président de MCBG Conseil, Philippe Moreau-Chevrolet, l'éditorialiste et présentateur du Grand Rendez-vous sur Europe 1, Mickaël Darmon. Bonsoir à tous les
bonsoir.
Trois.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et d'éclairer aussi nos auditeurs qui peuvent réagir d'ailleurs sur Twitter, sur le compte Twitter d'Europe 1. Avec vous ce matin, Mickaël, Bruno Le Maire, invité de poids, pour analyser la crise économique d'ampleur qui doit éviter de se transformer en crise sociale. On reviendra sur le plan de relance et sur ses projections à 2 ans. Il est optimiste, est-ce qu'on peut l'être aussi ? On y vient. La réalité sanitaire aussi décrite par Olivier Véran en termes choisis toujours. Le discours pragmatique d'Elisabeth Borne quand on lui parle de classes fermées pour cause de Covid, elle répond que la priorité est de permettre aux parents de travailler. On fera le tour de ce discours gouvernemental et puis au sommet, le match politique du jour dans la presse. Emmanuel Macron, 43% des Français le classent à droite. Son ancien Premier ministre fait la une du Parisien. Un match se dessine peut-être et vous réagissez. Mais d'abord, pour notre mise en bouche rituelle, en ce dimanche soir, 18h35, votre coup de gueule du jour. Pour commencer, Laetitia Crepa, on vous écoute.
Alors, mon coup de gueule, c'est contre le réseau social Instagram qui a suspendu pendant quelques heures les comptes de deux journalistes de Charlie Hebdo après qu'elles aient partagé la une du journal. Je vous rappelle qu'ils avaient republié les caricatures de Mahomet et la une de janvier 2015. Alors, ça a fait vraiment un pataquès sur les réseaux, même les hommes politiques et les femmes politiques s'en sont mêlés. Roselyne Bachelot a rappelé le droit à la caricature, mais le problème, ce n'est pas Instagram qui aurait censuré, mais c'est en fait les utilisateurs d'Instagram qui ont signalé les comptes des deux journalistes. Et donc, quand il y a beaucoup de signalements, il y a une sorte de robot qui annule, par précaution, les deux comptes suspects soi-disant. Donc, il y a eu une censure du peuple. Voilà le gros problème. Ce n'est pas une censure d'une application. Instagram appartient à Facebook. Instagram a présenté immédiatement ses excuses en disant qu'il n'y avait aucun lien. Mais si, il y a bien un lien. Et on voit que cette une de Charlie continue à dessiner une ligne de fracture dans la société française. Et c'est ça qui pose éminemment problème.
Oui, et le tout ça pour ça, brandi par Charlie, prend encore tout son sens avec, avec cette actualité. Vous vouliez réagir, Michaël Darmon, à ce fait, ou Philippe Moreau-Chevrolet? Ou non?
Vas-y.
Moi je suis d'accord. Moi, c'est effectivement le poids des utilisateurs qui fait qu'un poste va être suspendu, qu'un compte peut être suspendu. La bonne nouvelle, c'est que à la fois Instagram est revenu sur sa décision, donc il y a un appel possible.
Une vigilance
civique. On a effectivement délégué la régulation de la liberté d'expression en France au GAFA. C'est effectivement un gros problème. On ne va pas le résoudre aujourd'hui. Donc, voilà. La question est, c'est une initiative qu'on devrait prendre au niveau européen en réalité.
Coup de gueule ce soir pour une entreprise qui n'est pas si loin d'Europe 1, elle est même juste en bas de nos fenêtres. Michaël Darmon, vous parlez de Lafarge?
Oui, puisqu'on parlait de signalement, je trouve qu'il y a eu un signalement important, notamment en plus c'était une révélation d'Europe 1 cette semaine, donc du cimentier Lafarge qui déverse les déchets de ses camions dans la Seine. Ça se fait à plusieurs endroits, donc dans le long du fleuve de la capitale. Je trouve qu'à une époque, on avait parlé d'entreprises voyous, celles qui, en une nuit, déménageaient leur outil de production et laissaient les travailleurs sur le carreau. Je pense qu'on devrait aussi créer peut-être un statut d'entreprise voyous pour celles qui, justement, polluent comme ça les cours d'eau et l'environnement.
Et qui ont pignon sur rue, hein, encore une fois. Philippe Moreau-Chevrolet, poursuivre évidemment votre actualité et vos analyses sur votre compte Twitter. On sait que la situation sanitaire vous préoccupe énormément et je crois que c'est de cela dont il s'agit encore.
Oui, il y a eu 22 écoles qui ont été fermées en quelques jours depuis la rentrée. Donc, moi, mon coup de gueule, il est simple. Je pense qu'on a l'une des politiques de retour à l'école les plus nulles d'Europe en matière sanitaire. On n'a pas mis de moyens, on n'a pas mis d'argent. On a un plan de relance qui est de 100 milliards. On a l'impression qu'aucun des milliards concernés ne va venir aider l'école, ne va venir aider l'hôpital. Il y a des exemples de politiques qui sont différentes. En Italie, chez nos voisins, on a embauché, en prévision de la rentrée, 80 000 personnes en Italie. On a prévu des classes plus petites. On a prévu des purificateurs d'air. Dans le 9e où j'habite, il y a des purificateurs d'air dans l'école de mes enfants, mais c'est une exception en France. Il n'y en a quasiment nulle part ailleurs. Il n'y a pas de prise de température à l'entrée des écoles, alors qu'on pourrait le faire et que ça permettrait de renvoyer chez eux des cas de grippe, des cas de rhume, mais ça éviterait qu'on panique à chaque fois qu'il y a de la fièvre, en réalité. Et ça éviterait beaucoup de problèmes. Et on a une politique qui n'a absolument pas été réfléchie, et on s'en rend compte après le début de la rentrée scolaire. Moi, je ne comprends pas comment, alors que nous, on a une éducation fantastique, je ne comprends pas comment on est arrivé à cette situation.
On fera le point tout à l'heure sur une situation qui est parfois pas si claire que ça, avec l'épidémiologiste Martin Blachier. On nous dit que le virus circule de plus en plus, mais on est en train de réfléchir à un raccourcissement de la durée de la quatorzaine.
Les médecins la demandent et on estime qu'en fait, on n'est pas contagieux aussi longtemps qu'on le pensait. Donc la science a progressé et 5 jours suffiraient.
Oui, mais c'est vrai que dans l'opinion générale, c'est difficile à entendre, à comprendre. Et vous ajoutez à cela un discours qui va vous faire réagir. Je pense celui d'Elisabeth Borne, Laetitia Crepa aussi, qui veut trouver les solutions d'accompagnement à tout prix pour les enfants dont les classes, dont les écoles seraient fermées parce qu'elle privilégie le retour au travail. Il faut que les parents bossent. Voilà ce qu'elle dit et ce qu'elle martèle, la ministre du Travail.
Oui, elle le dit depuis un moment, hein, elle le dit depuis avant les vacances. Hein, donc ça, on a bien compris le mot d'ordre du gouvernement. Maintenant, il faut trouver des solutions. Et c'est un fait de dire retourner au travail. Maintenant, quid du mode de garde, quid de si, effectivement, ça dure 14 jours, comment on fait pour garder ses enfants? Et là, le gouvernement nous répond, on va s'adapter, on va trouver. C'est effectivement affolant de voir que rien n'a été pensé en amont. Enfin, je veux dire, ça, ils ont eu 2 mois pour se préparer. Les grandes vacances ont quand même été largement prises. On ne comprend pas une telle impréparation, une telle adaptation au jour le jour, alors que la crise sanitaire bat son plein.
Oui, et le télétravail n'est plus la panacée. On a envie de ce retour présentiel aussi dans les entreprises. Michaël Darmon est face à cela, ministre de l'économie, qui est très optimiste.
Oui, effectivement. Alors lui, c'est son travail d'être optimiste, hein, parce que justement, il travaille sur l'économie. Et l'économie, c'est la confiance. La confiance, c'est effectivement être capable de pouvoir la créer. C'est vrai que c'est une course contre la montre qui se joue. Puisque le gouvernement a au fond la course devant lui entre la crise sanitaire et la crise économique. Le grand stress de l'exécutif, c'est que cette crise sanitaire, si elle s'aggrave, eh bien, empêche le plan de relance de décoller, maintient une ambiance un peu anxiogène et fait en sorte que les investisseurs, quand même clés de ce plan de relance, donc fondés sur la confiance, eh bien, tout simplement n'aillent pas puiser dans ce qui est mis sur la table. C'est ça. Au fond, le grand stress. Donc, il y a un appel permanent au volontarisme depuis quelques jours, encore ce matin, effectivement, sur Europe 1. Mais à côté de cela, il y a aussi l'annonce de cette rentrée avec les plans sociaux en cascade. Ça a été encore confirmé par le ministre ce matin. En coulisses, il est encore plus alarmiste qu'il veut bien le dire à l'antenne, parce que bientôt, on va assister à des faillites, à des entreprises qui vont mourir, à des plans sociaux, à une augmentation puissante du chômage. On parle de 800 000 chômeurs supplémentaires. Or, le plan de relance annoncé prévoit 160 000 donc, chômeurs créés. Il va y avoir, au fond, un risque de hiatus entre la massivité, la puissance du plan annoncé et la perception par les Français de la manière dont ils peuvent en bénéficier.
Comment éviter justement aux Français d'avoir peur? Eh bien, c'est le discours de Marine Le Pen en partie cet après-midi. Discours partagé sur l'insécurité et sur le rapport à la crise économique et sociale par un certain nombre de grands partis. On va y venir avec nos invités. Grande Voix d'Europe 1, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Michaël Darmon, juste après ceci.
Europe 1, les grandes voix.
Jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir avec nous, Laetitia Krupa, journaliste politique, Michaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste des sciences politiques et de la communication politique, est avec nous ce soir. Je voudrais qu'on aborde cette rentrée politique avec distance, mais il y a beaucoup à dire aussi sur le sujet du jour. Je recevais Sébastien Chenu il y a quelques instants, c'est la rentrée politique de Marine Le Pen, qui ne se cache pas d'agiter les peurs, de parler de barbarie, la France devenue un coupe-gorge, ce que ne veut pas entendre le ministre de la Justice, qui devient son bouc émissaire, Philippe Moreau-Chevrolet. Voilà le discours très clairement lancé pour 2022.
Oui, alors ça convient à tout le monde. C'est le gouvernement a lancé le thème sécuritaire depuis quelques semaines. Donc Marine Le Pen accepte de jouer au ping-pong avec le gouvernement. Chacun se trouve finalement, puisque chacun a intérêt du côté de Macron à avoir un adversaire comme Marine Le Pen, du côté de Marine Le Pen d'être l'adversaire numéro un du président. Donc ça se trouve, ça se met en place avec le séparatisme, avec des choses comme ça qui arrivent dans le débat public. Ce qui est très étonnant quand même, c'est que c'est décalé par rapport aux attentes des Français et aux craintes des Français, qui ne sont pas sur la sécurité, qui sont plus sur le sanitaire, l'économie. La sécurité arrive en troisième ou quatrième position. Donc ce n'est pas encore tout à fait le sujet dominant du débat. Mais oui, ils vont jouer. Voilà, c'est le match qui s'installe pour 2022.
C'est un peu tôt, c'est un peu facile, écoute de toutes pièces, Michaël Darmon.
Ah, il a commencé depuis le premier jour du quinquennat.
Très longtemps.
De toute façon, on voit bien que les deux se donnent rendez-vous régulièrement. Marine Le Pen l'a encore dit récemment, on a vocation et en toute logique à se retrouver. Et dès le début de son mandat, Emmanuel Macron confiait en face, il n'y aura que Marine Le Pen à la fin. Donc de toute façon, c'est l'architecture des deux qu'ils ont en tête. Moi, ce qui m'a frappé dans le discours aujourd'hui, c'est évidemment... elle est obligée d'aller encore plus loin qu'ensauvagement. Donc il a fallu qu'elle monte d'un cran et elle est allée sur barbarie. De ce point de vue-là, elle était obligée. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle a qualifié le plan de relance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle n'arrive pas à s'adresser au monde de l'économie. Parce qu'en disant « il n'y a pas assez pour la demande et il y a trop pour les entreprises et ce sont encore les grandes entreprises qui vont l'emporter et les artisans sont, et les petites entreprises, elles, sont les grandes perdantes », eh bien, au fond, elle récupère un peu le discours classique de son père Et on voit bien qu'il y a un problème qui est un problème structurel au Front National, et au Rassemblement National maintenant, à parler au monde économique. Elle reste encore dans ce positionnement, on va dire sur la gauche populaire et qui veut s'adresser aux petites classes laborieuses. Et le problème, c'est que pour pouvoir réunir 22 millions d'électeurs, rappelle, en second tour d'élection présidentielle, il faut être capable de parler à tous les secteurs, en particulier au secteur économique de la nouvelle économie.
Laetitia Coubat.
Évidemment, c'est le grand enjeu pour Marine Le Pen. Elle a quand même échoué deux fois. Donc pour réussir, si jamais elle est au second tour, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avaler ce scénario qu'on nous sert tout cuit. On est à deux ans de la présidentielle.
Et d'ailleurs, ça commence à sortir.
Nous sommes journalistes. Il me semble que si je regarde ce match Macron-Le Pen, il y a quand même un espace à gauche qui existe, qui pour l'instant n'est pas incarné, et je suis d'accord que la gauche n'est pas organisée, mais enfin, factuellement, et au-delà de toute naïveté, il existe quand même quelque chose à gauche. Donc bien sûr que Marine Le Pen, elle, pour être au second tour et pour rallier un plus grand nombre d'électeurs possible, doit convaincre dans le secteur de l'économie, parce que la sécurité, finalement, elle parle à sa base est acquise. Bon, c'est bien de solidifier ses acquis, mais il faut aller plus loin et rallier plus large. C'est pour ça qu'elle veut se présenter aussi sans l'étiquette du Rassemblement National.
Absolument.
Ça va être intéressant de suivre. Est-ce qu'elle va venir seule, en candidate du peuple, comme elle dit ? Il va falloir convaincre qu'elle est la candidate potentielle.
En tout cas, elle fait le ménage au parti.
Oui, elle a juste, effectivement, de ce point de vue-là, écouté le conseil de Robert Ménard. Souvenez-vous, le bruit que ça avait fait lorsque Robert Ménard avait dit « si elle se présente sous l'étiquette du Rassemblement National, elle ne gagnera pas ». On avait cru que c'était une manière de rompre. En réalité, lui donner un conseil qu'elle est en train de suivre.
En tout cas, on est en plein dans la discussion aussi médiatique du moment, car pour déjouer ce duel qui s'organise, il y a ces hommes, ces femmes qui montent, mais ces hommes en particulier, et l'un d'eux fait la une du Parisien aujourd'hui, c'est Édouard Philippe, qui a retrouvé une vie plus normale, sans doute au Havre, qui cultive cette discrétion, cette distance, et qui pour autant arrive en deuxième position derrière Nicolas Sarkozy, lorsqu'on demande aux Français qui incarne le mieux la droite demain et pour 2022.
Philippe, c'est le candidat rêvé de la droite. Il a tous les attributs d'un président de droite potentiel. Il a le côté littéraire, il a le côté un petit peu transgressif, il a le côté provincial en créant la région. Il a géré une crise historique, il l'a géré. Voilà. Il l'a géré bien dans la difficulté au début, il a appris, il a changé. Il a été le seul à parler aux Français du quotidien de l'épidémie pendant des semaines. Il faut vraiment se représenter ce que ça veut dire. C'était le seul à parler de la réalité des choses, à répondre aux questions.
C'est vrai, tableau et courbe à l'appui, il en a joué. Mais
sa popularité
logique
n'est pas arrivée par hasard, c'est pas à cause de son pantalon jaune moutarde en une de match, je veux dire, il y a d'autres choses. Et c'est le bon candidat pour la droite parce qu'il a été avec Macron, mais qu'en même temps, il est clairement de droite, il n'a jamais été adhérent à LREM, il n'a jamais été un homme d'appareil véritablement, une fidélité à Alain Juppé, bref, il a toutes les qualités pour. Après, le même problème se pose pour lui que pour tous les candidats de droite en ce moment, est-ce qu'il a envie d'y aller? Et ça commence à devenir très fatigant pour les électeurs de droite parce que la pendule avance. Et voir que certains font la fine bouche, comme Barouin. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais j'ai peut-être d'autres choses à faire. La politique, c'est tellement difficile, vous savez. Et puis Xavier Bertrand, qui lui est bien et plutôt dans le match, mais pas encore assez fort. Bref. Il va falloir beaucoup de patience aux électeurs de droite.
On va voir ce que vous en pensez d'Edouard Philippe, Laetitia Crepa et Mickaël Darmon, juste après une petite pause.
Les grandes voix.
Laetitia Crepa, Philippe Moreau-Chevrolet et Mickaël Darmon pour évoquer cette rentrée politique, ses perspectives aussi pour 2022. Un homme très convoité, titre Le Parisien, qui place en une aujourd'hui Édouard Philippe. Parfait casting et candidat pour 2022 pour une partie de la droite, Mickaël Darmon.
C'est une sorte de projection, je dirais, un peu fantasmatique ou une sorte d'hologramme.
Oui, parce mais de qui ? De la presse ?
Parce qu'en réalité, oui, de la presse, d'une vision qu'on a de la droite, l'élégance, on retrouve un peu d'Alain Juppé, c'est modéré, c'est intelligent.
Mais vous aimez bien, il n'a pas rêvé.
Mais enfin, être candidat à l'élection présidentielle, c'est un combat de toutes les secondes. C'est être capable de dire je vais prendre des coups, c'est s'exposer, c'est envoyer des messages.
Non,
il n'a pas pris des coups. D'abord, il était fondé de pouvoir d'Emmanuel Macron, déjà.
Il en a pris.
Et puis, deuxièmement, il n'a pas pris de coups plus que ça, parce qu'il n'a pas, au fond, installé ses propres idées. C'est quoi le philippisme ? Vous avez une idée de la vision d'Édouard Philippe de la France ?
C'est exactement la question que je me pose.
Il y a eu un discours le samedi après-midi sur domotique et liberté. Pour dire, voilà ma vision du pays. Non, il a géré très bien. C'est la raison pour laquelle les Français lui en savent gré.
Ça fait toute la différence pour vous avec mais Xavier Bertrand, par exemple.
Avec ceux qui disent, du matin au soir, je serai président de la République. À ceux qui organisent, on l'a vu quand on a suivi la conquête de Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec un François Hollande, on l'a vu avec ceux qui, effectivement, décident de mettre leur vie sur la table. Parce que c'est ça, dans le système de la Ve République à la française, on met sa vie sur la table. Ce n'est pas le sentiment que donne Édouard Philippe, ce n'est pas le sentiment que donne également François Baroin.
Très bien, Laetitia Crepin.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Mickaël. Je pense que c'est la presse qui s'emballe. Elle est Philippe au fil, tout d'un coup, parce qu'elle cherche comme ça des incarnations, des héros romantiques. Il a un peu de ça, Édouard Philippe. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait, Édouard Philippe? À part imposer l'âge pivot dans la réforme des retraites, qui n'était pas une super idée, parce que ça a complètement crispé la CFDT. Qu'a-t-il fait? Quel est son bilan? Moi, j'en sais rien, je ne sais pas.
Il a géré.
Bien sûr.
Il a géré.
Non, mais il a géré. Voilà, en fait, ça ne joue à pas grand-chose, cette notoriété. Cette popularité complètement difficilement à qualifier, tellement elle est grande, d'Edouard Philippe. Non, mais ça s'est joué à quoi? Ça s'est joué à de l'humilité. Il a décidé d'avoir une posture humble, transparent, factuel, avec un bon duo avec Olivier Véran. Mais enfin bon, c'est pas là-dessus qu'on fait une candidature à la présidentielle.
Et Nicolas Sarkozy, est-ce que les gens y croient vraiment? Compte tenu du succès de son livre, on sait qu'il y a une appétence, qu'il y a un appétit de Nicolas Sarkozy qui arrive donc en première position pour incarner la droite. Voilà ce qu'il répond sur ses désirs d'avenir. C'était sur TF1 lors de la promotion de son livre au mois d'août.
Mais aujourd'hui, mon devoir, c'est un devoir vis-à-vis du pays que j'ai dirigé pendant 5 ans. Et je ne dois plus être dans le combat politique.
Donc c'est fini. Circuler, il n'y a rien à voir, Philippe Blanchevrolet.
Non. Bah non, vous savez, Michel Drucker avait dit qu'il ne ferait plus de télévision en 1996. C'était en une de TV Loisirs.
Charles Aznavour a fait ses adieux en 1997.
Charles Aznavour a fait. Non, c'est, il n'est pas dans une tournée d'adieu, Nicolas Sarkozy. Il pourrait revenir. Pourquoi? Parce que face à Macron, on va chercher l'antithèse du candidat. Donc on va chercher quelqu'un d'un peu plus âgé, avec de l'expérience, c'est plus rassurant, je pense, pour la prochaine élection. On pourrait imaginer un Sarkozy. Imaginez Sarkozy gérer le Covid, ce ne serait pas si mal que ça, finalement. Il serait plutôt rassurant, en tout cas pour l'électorat de droite. C'est pas forcément idiot. Après, il faut que les choses se décantent. Pour l'instant, la réalité, c'est qu'on est dans une situation de crise telle qu'il n'y a personne, mais vraiment personne qui peut dire à l'heure actuelle « je serai président de la République avec une bonne probabilité ». Voilà. Ça ne fonctionne pas. Si on a 1 million de chômeurs en plus d'ici la fin de l'année, si on a 30 000 morts en plus du Covid d'ici la fin de l'année, on ne sera plus du tout dans le même pays.
Oui, mais l'heure est à la restructuration aussi des partis, à recherche de grandes coalitions. Vous voyez Christian Jacob qui demande ce ralliement après d'Emmanuel Macron. François Hollande qui rêve d'une gauche remaniée, plurielle, qui pourrait arriver au pouvoir. Donc ça impacte quand même évidemment la vie, la philosophie des partis, Mickaël Darmon, en ce moment.
Oui, parce que tout est en recomposition permanente, que depuis le coup de tonnerre de 2017 et la manière dont effectivement Emmanuel Macron a fracturé, vitrifié les partis de gouvernement et sa manière qu'il a constante de continuer à le faire, en particulier vers la droite. La fracturation de la droite est la plus grande action cohérente du président Macron depuis 2017. C'est un sillon qu'il n'arrête pas de creuser et qu'il continuera de creuser jusqu'en 2022. Ça rend difficile, effectivement, la capacité de pouvoir créer de l'incarnation et créer de l'espace. Quant à Nicolas Sarkozy, qui lui a inventé le mandat post-présidentiel. C'est le président, c'est l'ex-président en exercice.
C'est un conseil qui est trop court.
Et en fait, il est en permanence dans cette logique de dire non, mais j'ai bien compris que vous voulez de moi, mais non. Mais en réalité, d'abord, c'est devenu un homme d'affaires. Et puis, il ne faut pas oublier que politiquement, il a été quand même licencié par sa propre famille lors de la primaire de 2016.
Et puis il y a juste aussi un procès qui a été décalé, certes, mais enfin, le procès pour corruption et trafic d'influence commence le 23 novembre. C'est peut-être une casserole quand même à prendre en considération.
Un mot de la fin, Philippe Morochevrolet. Je sais que vous aimez bien conclure et... Non ? Ou je me trompe ?
Si. Non, moi, je pense que l'espace... On parle de 20-25% au premier tour de l'élection présidentielle pour être éventuellement face à Marine Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire 20-25%. Donc je pense qu'on n'aura pas le scénario attendu, tout simplement parce que 60 à 80% des Français ne veulent pas du scénario attendu. Donc on aura de l'inattendu comme on a eu en 2020. J'ai peur que l'inattendu ne s'arrête pas en 2021. Donc ne fêtez pas la bonne année trop tôt.
Voilà. Non, la seule certitude, c'est qu'on
s'arrête. Il y a la reprise de la croissance dans 2 ans. Hein. Ça, c'est la certitude de Bruno Le Maire.
Certitude, on sera surpris.
Nous allons nous en sortir, voilà ce qu'il a dit. C'est son mantra.
Merci Laetitia Crepin, Philippe Moreau, Chevrolet, Mickaël Darmon. Je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Vous serez les récurrents de ce grand débat des grandes voix sur Europe 1 chaque samedi, chaque dimanche. Merci à vous trois. Et à tout de suite pour la
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez, chers amis auditeurs, c'est l'heure de l'info. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est 19h sur Europe 1. Merci de votre écoute et de votre fidélité.
Cette histoire de raccourcir l'isolement est tout faux. Les contacts de ces cars qu'on a trouvés, on leur dit de rester isolés pendant 7 jours seulement, ils vont ressortir à un moment, ils sont encore contagieux.
La quatorzaine est-elle en train de vivre ses derniers jours ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, juge cette période d'isolement trop longue et souhaite la réduire de moitié.
Nous en parlions à l'instant, l'optimisme de Bruno Le Maire, c'était sur Europe 1, le ministre de l'économie qui estime que dans 2 ans, la France retrouvera son niveau d'avant-crise. Une thèse que ne partagent pas forcément les économistes.
Un nouveau dimanche de mobilisation en Biélorussie contre le président Loukachenko, des milliers de participants et des dizaines d'arrestations. Un point sur la situation dans ce journal.
Et puis après 6 mois de fermeture, l'Olympia rouvre ses portes ce soir avec un concert qui marquera l'histoire de la salle mythique parisienne. Nous serons sur place dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est le journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors que le coronavirus circule de plus en plus activement sur le territoire, 7000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, 58 nouveaux foyers épidémiques, ce qui porte leur nombre total à 528.
Et 7 nouveaux départements sont passés en zone rouge. Le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime, la Côte d'Or, toute la Corse et l'île de la Réunion. 28 départements sont ainsi classés dans le pays. Johanna Chabas, concrètement, ça change quoi ?
Eh bien, ça veut dire que la préfecture du département peut prendre des mesures immédiate pour ralentir la propagation du virus. Elle peut notamment limiter les déplacements dans la zone, interdire l'accueil du public dans les musées ou encore décider d'une heure de fermeture pour les bars et les restaurants. C'est le cas par exemple dans les Bouches-du-Rhône. À 00h30, c'est désormais rideau baissé. Selon Jean-Paul Stahl, professeur de pathologie infectieuse au CHU de Grenoble, ce passage en zone rouge et ces mesures sont le dernier rempart pour contrôler l'épidémie.
On voit monter le niveau des eaux. On sait qu'un jour, il va dépasser les digues. On n'y est pas encore, parce qu'on est dans un système de prévention. Donc la zone rouge est fixée en deçà de la bascule. C'est-à-dire qu'on est dans la zone, vraiment, où il est important d'appliquer les mesures de prévention. Si on ne veut pas être dans la zone où on bascule. Parce que quand c'est la bascule, c'est trop tard. On ne peut plus rien y faire.
Et c'est ce qui inquiète. Le ministre de la Santé a déjà annoncé qu'une augmentation du nombre d'entrées en réanimation est prévue pour dans 15 jours. Mais le professeur Jean-Paul Stahl se veut rassurant. Rien n'est encore fait. La France peut inverser la tendance. Le tout est que chacun continue de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières.
Merci Johanna Chabas. Alors lorsqu'une personne présente des symptômes ou a été en contact avec un patient positif au Covid, elle est actuellement placée en isolement durant 2 semaines. C'est la fameuse quatorzaine.
Le délai est désormais à l'étude puisqu'Olivier Véran le juge trop long et demande au conseil scientifique de rendre un avis. Laura Tawashanoff.
Trop long parce que la contagiosité diminue après une semaine de symptômes, mais la durée de l'isolement doit se déterminer au cas par cas, estime Robert Cohen, un infectiologue.
Si c'est à partir de la date de contamination, il vaut mieux prendre 14 jours. Si c'est à partir de la date du début des symptômes cliniques ou d'une PCR positive, 7 jours sont suffisants. Ce n'est pas parce qu'ils peuvent retourner travailler ou retourner de l'isolement que toutes les mesures d'hygiène s'arrêtent. On leur encourage fortement à continuer à porter le masque de façon rigoureuse pour limiter la phase de contagiosité maximale.
Mais la question divise les scientifiques. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, cette décision pourrait être contre-productive pour les cas contacts, ceux qui ont côtoyé un malade, puisque leur date de contamination n'est pas la même.
Là, c'est une non-stratégie. Les contacts de ces cas qu'on a trouvés, qui sont à la partie émergée de l'iceberg de toute façon, ils risquent d'être encore contagieux au bout de 7 jours, eux. On leur dit de rester isolés pendant 7 jours seulement, ils vont ressortir à un moment, ils sont encore contagieux. Donc, cette histoire de raccourcir l'isolement est tout faux.
Une quatorzaine fortement recommandée, mais pas obligatoire et donc pas toujours respectée. Raccourcir la durée pourrait donc encourager les Français à s'isoler davantage.
Et on en reparlera avec Martin Blachier, épidémiologiste. Merci pour ce point sur Europe 1. Sophie Tussaud.
Et avec la crise sanitaire, la crise économique, quelques jours après avoir présenté son plan de relance, Bruno Le Maire, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, le ministre de l'économie estime que d'ici 2 ans, tout sera réglé.
Nous allons nous en sortir. Il faut regarder un tout petit peu plus loin et se dire qu'à échéance de 2 ans, début 2022, un peu moins de 2 ans, ouais, nous aurons retrouvé le niveau de développement économique avant la crise. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de l'économie française ? Ce n'est pas l'économie française elle-même, c'est un virus. Les fondamentaux de l'économie française que nous avions redressés depuis 3 ans avec Emmanuel Macron restent excellents.
un délai jugé possible pour Éric Heyer, même si l'économiste à l'OFCE estime en revanche que cela n'enrayera pas pour autant la hausse du chômage. Écoutez.
Alors bien sûr, il est possible de retrouver les niveaux d'activité de 2019 en 2022, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Mais il faudra garder quand même à l'esprit que retrouver ces niveaux de production ne veut pas dire que la crise est effacée, puisque on aurait dû avoir normalement de la croissance au cours de ces 3 années-là, et que la population active étant plus nombreuse et que la productivité accélère, ça veut dire que globalement, si vous produisez la même chose dans 3 ans qu'aujourd'hui, ben, ça veut dire que vous avez besoin de moins de personnes pour produire cela et que le chômage sera plus élevé. Donc attention, produire la même chose veut dire tout de même un chômage élevé et un chômage qui serait 2 à 3 points au-dessus du niveau de 2019.
Alors 2 à 3 points au-dessus, ça équivaudrait à 1 million de demandeurs d'emploi supplémentaires par rapport à aujourd'hui. L'économiste Éric Heyer avec Damien Mestre pour Europe 1. Notez également que les entreprises qui souhaitent prolonger la durée de leur prêt garanti par l'État pourront bénéficier de taux bancaires particulièrement avantageux de 1 à 2,5% selon le ministre de l'économie. L'insécurité en France a récemment ressurgi au cœur des préoccupations de Yannick Jadot, le député européen écologiste qui la juge insupportable, à Marine Le Pen qui en fait son thème principal de campagne pour la présidentielle de 2022, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, annoncent aujourd'hui qu'ils communiqueront désormais tous les mois les chiffres de la sécurité et un bilan de l'activité des forces de l'ordre.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous restez avec nous et avec Sophie Tussaud. Le 5e dimanche de contestation en Biélorussie, il en sera question, mais aussi de la réouverture de l'Olympia à Paris. La salle parisienne était fermée depuis le début du confinement. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et Sophie Tussaud, et l'actualité en Biélorussie, rien ne semble décourager les manifestants dans le pays. 5e dimanche de contestation à Minsk aujourd'hui, et à nouveau une marée humaine qui déferle dans les rues de la capitale, Sophie.
Oui, ils réclament le départ du président Alexandre Loukachenko, dont la réélection le mois dernier est jugée frauduleuse. Malgré le temps et un déploiement impressionnant des forces de sécurité, les manifestants ne reculent pas et sont toujours extrêmement nombreux, Roman Hockey.
Oui, et même la pluie qui arrose aujourd'hui les rues de Minsk ne décourage pas la population. D'après les médias locaux, au moins 100 000 personnes, peut-être plus que la semaine dernière, sont rassemblées au son des tambours dans le centre-ville. Une foule dense, enveloppée dans des drapeaux rouges et blancs, couleur de l'opposition au président Loukachenko. Nous croyons, nous pouvons, nous gagnerons, scandent les manifestants qui réclament le départ du chef de l'État. Face à eux, toujours cet impressionnant dispositif anti-émeute, des colonnes de police, des canons à eau et des fourgons militaires qui quadrillent le centre-ville. Sur cette vidéo, par exemple, des policiers extirpent brutalement un groupe de manifestants avant de les traîner au sol. Une ONG biélorusse sur place a recensé près de 75 interpellations aujourd'hui. Une démonstration de force pour Loukachenko. Le président reste inflexible, certain de pouvoir compter sur le soutien de la Russie. Mais si le Kremlin s'est dit prêt à envoyer des troupes, pour l'instant, à Moscou, l'heure est à la retenue.
Merci Roman Hockey. La France endeuillée au Mali. 2 militaires de la force Barkhane ont été tués hier. Un autre a été grièvement blessé. Leur blindé a été détruit par une bombe artisanale. Ils appartenaient au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes.
Il est 19h11 à l'écoute de votre grand journal. Et un événement ce soir, ce dimanche soir, la réouverture de l'Olympia, la mythique salle de concert, était fermée depuis le début du confinement le 11 mars.
Et c'est Brigitte Fontaine qui inaugure cette réouverture pour un concert à guichet fermé. Elle devait initialement s'y produire le 29 mars dernier. Angèle Châtelier, vous êtes devant l'Olympia pour Europe 1. Les portes ouvrent dans une demi-heure à présent.
Et quel plaisir de revoir cette entrée mythique, notamment devant laquelle il n'y a pas de barrière, comme c'est le cas d'habitude pour éviter les attroupements. D'ailleurs, cette grande entrée qui permet de récupérer ses billets attire les curieux qui ne viennent pas forcément pour le concert de Brigitte Fontaine. Ils regardent simplement la dizaine d'affiches de concerts à venir à l'Olympia. Mais sinon, il n'y a pas foule pour l'instant parce que chacun a sa place assise. Inutile donc de venir 2 heures avant le début du concert. Sauf pour cette spectatrice trop impatiente et heureuse d'y être enfin.
On a suivi les reports et tant mieux, ça a lieu. Moi, ça va pas être la même.
même ambiance, forcément. Après, ça a peut-être apporté des surprises autres. C'est super que les salles de concert réouvrent.
Que le public soit assis, c'était la condition pour que le concert puisse s'y tenir. 1380 sièges en tout, alors que Brigitte Fontaine aurait dû jouer devant 1800 personnes si la fosse était debout. Mais crise sanitaire oblige, le bar sera fermé, pas de vestiaire et masque obligatoire. Pas de quoi faire peur à Brigitte Fontaine qui a déjà prévu une nouvelle date à l'Olympia en mars 2021.
Merci Angèle Châtelier à l'Olympia pour Europe 1.
Elle est en forme Angèle, elle l'attend.
Merci, à tout à l'heure 19h30 pour l'info Sophie Tissot. Un petit point météo, comment on commence la semaine demain Valérie Darmon?
C'est une belle journée qui s'annonce. Passer les grisailles au lever du jour sur une grande partie du nord-ouest de la France. Les éclaircies vont revenir, même si les passages nuageux sont plus nombreux près de la Manche. Quelques averses se déclenchent aussi sur le relief Corse, les Alpes et les Pyrénées. Le Mistral se renforce avec des rafales à 90 et la Tramontane reste modérée dans son domaine. Les minimales seront comprises entre 7 et 14 du nord au sud, 15 à 19 près de la Méditerranée, jusqu'à 21 sur l'île de Beauté. Les maximales 20 à 26 degrés et jusqu'à 28 dans le sud-est.
Merci Valérie. L'actualité des sports, on vous retrouve Jean-François Pérez avec l'inoubliable après-midi de Pierre Gasly. C'est lui qui est à 24 ans, c'est ça, hein, oui. Offre à la France son premier Grand Prix de Formule 1 depuis un quart de siècle, s'il vous plaît.
Oui, 24 ans, 3 mois, 18 jours. Quand bien. Olivier Panis remportait le Grand Prix de Monaco en 1996, eh bien Pierre Gasly était un bébé de 2 mois à peine. Et sur le mythique circuit de Monza, au terme d'une course folle marquée par les abandons des deux Ferrari, puis la pénalité infligée à Lewis Hamilton, qui dominait sans partage la saison jusque-là, eh bien le pilote français de l'écurie Alfa Tauri s'est imposé avec beaucoup d'autorité, mais aussi de la rage, lui qui avait été exclu de la grande écurie Red Bull l'an passé et renvoyé dans la petite filiale, pas le niveau apparemment. Mmh. Eh bien, le Rouennais Pierre Gasly devient le 13e Français seulement, vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Il rejoint Panis donc, allez-y, Prost, mais aussi Jacques Lafitte, qui avait remporté 6 courses dans les années 70 et 80. Jacques Lafitte, invité ce soir d'Europe 1 Sport, très heureux pour son jeune successeur.
Une victoire très importante pour Pierre, qui avait été malmené dans son équipe l'année dernière, qui vient de prouver à tout le monde qu'il avait des qualités extraordinaires. C'est un garçon généreux, plutôt facile, travailleur, très, très simple. Donc c'est en plus une très belle victoire avec un aplomb incroyable. Il a résisté à Carlos Sainz pendant les derniers tours d'une façon phénoménale. C'est une victoire formidable. Et puis c'est, quand on aime la course automobile comme moi et la France, on est content qu'un pilote français, après Panis, il y a 24 ans, comme vous le disiez, soit essayé de retentir la Marseillaise à Monza, en Italie en plus et à Monza surtout. C'est un moment inoubliable et dans sa vie et pour sa vie future.
Voilà, et on retrouve Pierre Gasly dès la semaine prochaine sur le circuit de Mugello pour le Grand Prix de Toscane, toujours en Italie.
Vous avez entendu la voix de Lionel Rousseau qu'on retrouve dans un instant, mais je vous salue tout de suite.
Bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Bonsoir,
on pourra partir de l'intérieur, vous avez eu peur.
Hein.
On passe au Tour de France. On dit au revoir aux Pyrénées au terme d'une journée qu'on peut qualifier de slovène, Jean-François Pérez.
Victoire d'étape pour Tadej Pogacar, maillot jaune pour Primož Roglič, désormais favori pour la victoire finale. Et les Français dans tout ça? Eh bien, ils sont deux dans le top 5 au général. Romain Bardet est 4e et Guillaume Martin 3e au sortir des Pyrénées. C'est une belle surprise. Le coureur de l'équipe Cofidis dresse un bilan très positif de sa première semaine.
Ça a monté très vite, évidemment, les 3-4 derniers kilomètres. Donc c'était une journée très, très intense du début à la fin. Il n'y a pas eu de temps mort. Et c'est une belle performance. Il ne manque pas grand-chose en haut pour être avec les tout meilleurs. Je suis dans le deuxième groupe avec beaucoup de grands noms, donc c'est bien, c'est un week-end pyrénéen réussi. Ouais. Je suis dans l'allure, hein, à chaque fois ça joue à pas grand-chose entre les tout meilleurs, donc oui, très heureux d'être à ce niveau-là. Ouais.
Voilà, demain repos, on se retrouve mardi pour la 10e étape, ça sera très bien, hein, entre l'île d'Oléron et l'île d'Orée, ça va
bien.
Être très joli.
Changeons de paysage, on passe au foot avec l'équipe de France de retour au Bercail après sa victoire hier soir en Suède.
Oui, pour leur première sortie depuis 10 mois, les Bleus se sont imposés 1-0, on l'a vécu en direct hier soir sur l'antenne. Une victoire poussive à l'image de la prestation d'Antoine Griezmann, bien discret, qui a raté un pénalty, mais vous allez l'entendre, ses coéquipiers viennent au soutien à l'image d'Olivier Giroud.
Je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi qu'ils reprennent confiance à... En les reprenant, j'ai assuré l'intérim sur 2-3 pénalties, mais ce soir, je ne pouvais pas le tirer. Il y a des périodes comme ça où, enfin, des fois, tu tires sans regarder, ça va au fond, et des fois, c'est un peu plus difficile, tu as l'impression que la cage est un peu plus petite, donc je ne suis pas du tout inquiet pour lui, et je trouve qu'il a fait plutôt un bon match.
C'était Olivier Giroud, l'équipe de France, Antoine Griezmann, évidemment, ce sera au sommaire d'Europe 1 Sport dès 20h, Lionel.
C'est l'un de nos débats, c'est l'une de nos thématiques, Antoine Griezmann, qui est le leader technique de cette équipe de France. La star, c'est Mbappé, c'est vrai, qui a tout de même loupé son 3e pénalty avec les Bleus. C'est beaucoup pour un joueur de ce talent, de ce niveau. C'est du jamais vu. On va se demander pourquoi il est transparent. Sans doute parce que depuis qu'il a
signé à Barcelone. Il se sent triste, il a perdu son football. On l'évoquera ce soir avec nos experts.
À partir de 20h, Lionel Rousseau, Jean-François Pérez, merci à tous les deux.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
7 nouveaux départements en zone rouge, un délai de 14 qui pourrait être raccourci, la justice qui intervient sur le port obligatoire du masque. On fait le point sur l'encadrement du virus avec notre invité épidémiologiste Martin Blachier.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous êtes sur Europe 1, 19h19, au cœur de votre soirée d'infos. Depuis ce matin, 7 nouveaux départements qui passent en zone rouge du fait de la circulation active du virus sur place. Les préfets ont donc des pouvoirs renforcés pour prendre les arrêtés nécessaires. Bonsoir Martin Blachier.
Bonsoir.
Vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste et on a besoin de vos lumières une fois de plus pour comprendre sans affolement mais avec précision ce que ça veut dire. D'abord, on est à 28 départements en zone rouge. Ça veut dire que sur ces territoires, la diffusion de ce virus peut être hors de contrôle si on ne respecte pas scrupuleusement ces mesures barrières?
Oui, hors de contrôle, je ne sais pas. On sait qu'on a une circulation virale qui progresse, pas très rapidement par rapport à ce qu'on avait en mars-avril, mais qui progresse réellement.
Qui progresse un peu moins grâce au port du masque et aux gestes barrières.
Absolument, grâce aux mesures barrières qu'on a mis en place essentiellement ces dernières semaines, ça progresse beaucoup plus lentement et le port du masque va encore ralentir nettement cette progression virale.
Et quand on fait le contraire, c'est-à-dire quand on relâche un peu la pression pour rompre un petit peu l'isolement comme dans les EHPAD, on a presque la moitié des clusters dans ces lieux en l'espèce, Martin Blachier.
Absolument.
CQFD.
Absolument, en fait c'est totalement lié à nos comportements directement liés et effectivement là on a des comportements qui font que ça progresse lentement mais sûrement.
D'où on imagine votre incompréhension lorsque la justice ergote, disent certains, sur l'étendue du port du masque obligatoire à Lyon et à Strasbourg. Le Conseil d'État en discute en ce moment même, mais vous êtes de ceux qui considèrent qu'il faut être simple, pragmatique, clair là-dessus?
Je ne sais pas. Je pense que pragmatique, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Moi, le port du masque en extérieur, j'ai toujours été très réservé. Et je pense que comme ce n'est pas appuyé sur grand-chose scientifiquement, ça va toujours amener à des controverses. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent que ce qui est très important, c'est de le porter à l'intérieur. En extérieur, ça fera toujours débat puisque la science dit plutôt que ce n'est pas très nécessaire en extérieur.
Oui, donc c'est aussi bien d'avancer doucement et de vous interroger régulièrement. Santé publique France révèle une dynamique de transmission en forte croissance et préoccupante. Qu'est-ce que ça signifie dans des lieux où, en l'occurrence, le port du masque est obligatoire, où les gestes barrières sont respectés? Ça veut dire que le virus, malgré tout, est plus fort que tout ça?
Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a un retard à voir les effets du port du masque en intérieur.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attendait. Donc là, on a plutôt une cinétique virale qui reflète le comportement qu'on a eu fin août et où on n'avait pas encore ce port du masque qui était étendu. Normalement, si on porte bien le masque en intérieur, on devrait avoir une cinétique virale qui va au moins se stabiliser, au mieux diminuer.
Le fait que les laboratoires de dépistage sont pris d'assaut, c'est une bonne chose, c'est un bon signal pour vous?
Non, je pense qu'il faut totalement revoir la théorie et la stratégie de dépistage. Je pense qu'il faut prioriser. Il faut que ce soit des gens qui sont symptomatiques, soit des gens qui ont eu un réel contact à risque. Il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'un réel contact à risque pour ce Covid-19. Ce n'est pas simplement croiser quelqu'un dans la rue qui serait porteur. Si on porte un masque, ça ne sert à rien. Donc il faut apprendre aux gens qu'est-ce que c'est qu'un contact à risque Covid. Et je crois qu'ils ne le comprennent pas. Il y a 2/3 des gens qui font des tests, c'est parce qu'ils pensent avoir eu un contact à risque. Et il y a 97% de cas négatifs. Ça prouve qu'on ne priorise pas bien les tests.
Oui, la difficulté du moment, c'est le brassage, le retour de vacances, le retour à l'école, au travail, la nécessité de reprendre aussi économiquement la vie ensemble. On a, cela dit, un arsenal qui vous semble aujourd'hui à la hauteur et des expérimentations, par exemple comme ce port du masque transparent qui serait donné aux enseignants maternels, qui ont du sens aussi, Martin Blachier.
Absolument, moi je trouve ça très intéressant et je pense que c'est exactement la direction dans laquelle il faut aller. Il faut essayer que ce port du masque dans les lieux clos, ce qui va très probablement durer pendant une petite année, soit le plus supportable possible. Et toutes les innovations technologiques qui nous permettront de vivre au mieux avec ce masque dans les lieux clos sont la bienvenue, car j'ai bien peur que pendant un an, ce soit la seule solution pour contrôler cette épidémie.
Un an, c'est la perspective affichée et partagée en ce moment.
C'est la perspective de l'OMS, oui. Printemps 2017, donc à mon avis, c'est la plus optimiste.
Oui, bien sûr. Il y a cette connaissance de la maladie qui s'améliore, heureusement, de semaine en semaine. D'où ce débat du moment, et on l'évoquait dans le journal, sur un éventuel raccourcissement de la période de quatorzaine, en fonction du profil des malades. Il y a controverse, en tout cas, il y a débat entre vous. Médecin, quelle est votre position, Martin Blachier?
Moi, je pense que ce n'est pas le bon angle. J'ai pas vu dans la littérature de raison solide de raccourcir cette quatorzaine. Je
l'économie,
rappelle,
peut-être.
C'est 5 jours d'incubation plus 7 à 10 jours de période contagieuse. Donc j'ai du mal à voir comment ça peut devenir 7 jours. Je pense qu'il y a trop de quatorzaines. Je pense que la grande, grande majorité sont inutiles et que des gens qui ont des contacts, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont couru aucun risque. Donc, à mon avis, il faudrait faire un petit questionnaire pour essayer d'évaluer le risque avant de mettre les gens en quatorzaine, plutôt que de raccourcir la durée des quatorzaines qui, elles, sont très utiles.
Oui, bien sûr. Cet assouplissement, en tout cas la réflexion sur cet assouplissement, de même qu'un certain nombre de bars autorisés à ouvrir plus longtemps dans les Bouches-du-Rhône, est-ce que cela envoie le bon signal pour vous ?
Je pense qu'il faut donner un signal aux gens qui est « vous allez pouvoir vivre oui. ». En revanche, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger. Et je pense vraiment que quand il y a du monde dans une pièce, il faut que les gens portent le masque, il faut qu'ils comprennent que ce soit important. Et s'ils ne le font pas, on va réavoir un coup d'arrêt dans cette reprise. Je pense que tout le monde sera très embêté.
On a un discours de vérité de la part du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait hier, il y a une augmentation de contamination, de cas graves, d'hospitalisation dans les semaines qui viennent, au moins dans les 15 jours. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est ce qui semble se profiler aujourd'hui en réanimation ?
Absolument, Olivier Véran a eu un discours d'absolue vérité. Mmh. On pense qu'il y aura une augmentation des cas graves, pas une augmentation dramatique, mais une augmentation continue pendant une à deux semaines, voire trois semaines, avant d'avoir l'effet masque qui va arriver. Donc effectivement, suite à cette augmentation de la contamination, on risque d'avoir une petite augmentation des cas graves en réanimation dans les 2-3 semaines qui
vont venir. Et le profil de ces cas graves ?
Toujours les mêmes. Mmh. Ça va être des patients âgés, des patients atteints de comorbidité, dans de très 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 rares cas, des patients jeunes qui n'ont pas de comorbidité.
Merci Martin Blachier pour votre expertise, médecin de santé publique, épidémiologiste. C'est bon à chaque fois de faire le clair avec vous et vos confrères. Merci beaucoup.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
On retourne demain au travail pour certains à vélo. C'est la tendance du moment. On vous parle du vélo-taf avec Jean-Jacques Herry. Et puis dans Planète Sauvage, le plan de relance qui pourrait aussi bénéficier à la modernisation des abattoirs.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Europe 1. À vélo.
À vélo sur Europe 1 avec Jean-Jacques Herry. On vous parle d'une pratique dans l'air du temps, le vélo-taf, c'est-à-dire prendre son vélo pour aller travailler. Alors que la moitié des Français, sachez-le, habitent à moins de 8 km de leur travail. Eh bien, c'est une tendance qui peut encore séduire, Jean-Jacques.
Bonsoir Wendy. Oui, et pour bien comprendre, je vous propose une petite comparaison. Alors ça, c'est Pierre Devineau, le présentateur de la matinale week-end, quand il se gare le matin dans le garage d'Europe 1. Moi, j'arrive quelques heures plus tard. Alors vous l'entendez, aller au travail en vélo, ça fait moins de bruit, mais évidemment c'est plus que ça. Hein. Hélène s'est mise au vélo taf il y a un an tout pile, Paris-Saint-Ouen, une heure pour l'aller-retour tous les jours. Et elle m'a dit que ça avait carrément changé sa vie.
Je prenais la ligne 13, ce qui est assez l'enfer quand on habite Paris, la ligne 13, parce que ça fonctionne pas très bien. Donc on se retrouve très très souvent avec une espèce de marée humaine sur le quai le matin. Ta journée commence par ça, c'est pas très confort. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre le vélo. Et voilà comment a commencé l'aventure. Tu te muscles hyper vite, je trouve. Vraiment, en quelques semaines, t'as la forme, quoi. T'as déjà pris ta bouffée d'oxygène, donc t'arrives au boulot, t'as la pêche. Et sur le moral, mais t'as tout le stress du métro qui disparaît. Mais alors ça, c'est merveilleux.
Ah, le stress du métro, on peut le comprendre. Les embouteillages aussi. Que ce soit meilleur sur le moral. Il n'y a pas de débat, je pense, Jean-Jacques Herry. Mais quand vient l'hiver, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, on fait comment ?
Ah bah ça, évidemment, c'est la question qui revient tout le temps. Je laisse Hélène vous répondre.
J'ai un espèce de caouet, un espèce de truc géant qui est jaune fluo noir d'une classe absolue et qui descend en fait, qu'il y a des scratchs autour des jambes. Et du coup, quand tu, c'est une espèce d'immense poncho en fait. Et quand tu laves, vraiment, tu prends rien, tu prends pas une goutte d'eau. Alors, c'est sûr que t'as pas la dignité, la classe et le talon aiguille, mais c'est pas très grave en fait. Je trouve que ça, c'est assez naturel en fait.
Alors précision, le vélo taf c'est du transport et pas du sport. Pas besoin d'être très athlétique pour s'y mettre, faut surtout un déclic, souvent plus pragmatique qu'écologique d'ailleurs. Pour Pierre, jeune trentenaire, c'était pendant les grèves de décembre dernier, avec un vélo électrique, aller travailler à Roissy depuis Pantin est plus rapide qu'en transport en commun.
Sur un parcours de 20 km, je gagne 20 minutes, très précisément. Et le vélo, c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'on est parfaitement autonome, indépendant des grèves, indépendant des pannes de transport, des bouchons. On est très fiable sur son timing. Et en tant que jeune papa, là, récemment, il m'importe, moi, beaucoup d'être sûr d'arriver à l'heure pour aller chercher mon enfant.
Voilà, deux adeptes du vélo taf, le transport, pas vraiment du sport, mais quand même un peu de sport. On prend une panoplie, un équipement particulier, évidemment, pour cela.
Il y a des accessoires indispensables, un casque, des lumières à l'avant et à l'arrière, un poncho, des sacoches éventuellement, et puis aussi un antivol. Mais surtout, quand on achète un vélo, il faut pas acheter n'importe quoi. Et Jérôme Sorel, auteur de Vélotaf Mode d'emploi, nous explique pourquoi.
L'utilisation Vélotaf est probablement l'utilisation la plus exigeante pour le vélo, parce qu'on l'utilise tous les jours. Les pneus souffrent beaucoup, les plaquettes de frein souffrent, la chaîne souffre. Pour utiliser un vélo au quotidien, il faut mettre un peu d'argent. Mmh. Un vélo neuf à 150 euros, c'est une saucisse. Quand on va appuyer sur les pédales, au bout de deux jours, la pédale va tomber. Sincèrement, en dessous de 500-600 euros, ça commence à être compliqué de trouver un bon vélo neuf.
Et pour inciter au vélo taf, sachez que la loi mobilité prévoit un dispositif, ça s'appelle le forfait mobilité durable. C'est pas obligatoire, c'est encore trop méconnu en France, mais l'entreprise peut verser jusqu'à 400 euros par an à ses salariés qui viennent à vélo, une somme sur laquelle les salariés ne payent pas d'impôts et l'employeur, lui, aucune cotisation sociale.
C'était à vélo, on se retrouve la semaine prochaine, Jean-Jacques Herry.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h31, c'est l'essentiel de l'actualité, Sophie Tussaud.
Plus de 7000, bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Plus de 7000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures en France. 7 nouveaux départements en zone rouge, 28 au total, ce qui signifie que face à la circulation du coronavirus, des mesures renforcées peuvent y être adoptées. Bientôt des masques transparents pour tous les enseignants de maternelle et ceux qui ont dans leur classe des élèves malentendants. Annonce de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, dans les colonnes du JDD. Les entreprises qui souhaitent prolonger la durée de leurs prêts garantis par l'État bénéficieront de taux bancaires particulièrement avantageux. Annonce de Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1. Cinquième dimanche de mobilisation contre le président Loukachenko en Biélorussie. Des dizaines de milliers de manifestants, malgré un impressionnant déploiement des forces de l'ordre. Et des dizaines de personnes ont été arrêtées. Puis en Formule 1, la victoire du Français Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie à Monza. Une première depuis 24 ans.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Europe 1, le journal de l'environnement.
Dans ce journal de l'environnement, avec vous Virginie Salmen, on va parler d'une petite nouveauté qui se déploie dans certaines villes, petites ou grandes d'ailleurs depuis la rentrée, les rues sans voiture aux abords des écoles. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy.
Alors
bonsoir,
ça s'appelle rue aux écoles ou rue des enfants, suivant les quartiers ou les villes. Et vous me disiez que cette tendance est particulièrement nette à Paris, mais aussi à Lyon.
Oui, alors à Paris, 57 nouvelles rues ont été apaisé, comme on dit, pour cette rentrée. Alors parfois, il y a plusieurs écoles par rue. Donc au total, ce sont 80 abords d'écoles. À Lyon, l'accès à 9 écoles vient d'être aménagé juste pour la rentrée. Le maire Grégory Doucet va continuer. Il veut faire de Lyon la ville des enfants.
Bon, là, on est toujours dans cette sémantique. Ville apaisée, rue apaisée, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça veut dire qu'un enfant peut lâcher la main de son parent en sortant de l'école, qu'il n'y a pas une voiture qui pourrait l'écraser devant la porte. Donc on sécurise. Donc en ce moment, à Paris, les habitants découvrent, par exemple, dans cette rue du 18e arrondissement.
Moi aussi, c'est oui, parce que parfois, il se met à courir et qu'il y a des voitures pas loin et que oui, c'est pas mal, en tout cas sur la zone de l'école.
C'est pas prévisible, ça va être très gênant pour la circulation.
Donc on entend que l'accueil est un peu mitigé, ça dépend.
Ça commence.
Donc dans environ la moitié de ces rues, la mairie de Paris a carrément fermé la rue aux voitures ou l'a transformée en impasse en mettant des barrières à un bout. Dans l'autre moitié, les urbanistes de la ville ont fait en sorte d'obliger les automobilistes à rouler au pas 20 km/h en posant d'énormes jardinières en quinconce, donc on se l'allume. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de la rue Tandou dans le 19e arrondissement. Là, ça répondait à un besoin de sécurité immédiat puisqu'une petite fille avait été percutée par une voiture l'an dernier. Alors dans ces rues, les places de stationnement ont donc été purement et simplement retirées, jusqu'à 40 places en moins dans une rue.
Voilà, et ça favorise évidemment cette ville aux piétons. Les rues sans voiture aux abords des écoles, ce sont donc des aménagements d'abord pour des raisons de sécurité routière. Là, on oublie un petit peu la politique ou l'idéologie.
Oui, alors pas seulement. Effectivement, sécurité routière, mais il y a aussi un autre gros enjeu. Vous le savez sans doute, quand on dépose son enfant à l'école en voiture, on contribue à polluer l'air intérieur de la classe. Le dioxyde d'azote ne s'arrête pas à la porte de l'école. Donc, il y a un enjeu aussi de pollution de l'air autour et dans les écoles.
D'accord.
Une enquête réalisée l'an dernier par l'association Respire montrait que 680 écoles d'Île-de-France dépassaient les normes légales de pollution au dioxyde d'azote sur 12 000 écoles environ, même si la qualité de l'air a globalement tendance à s'améliorer depuis quelques années.
Oui, sauf qu'évidemment, il faut se promener maintenant avec un GPS totalement remanié parce que le nombre de rues fermées aux voitures près des écoles va continuer à augmenter.
Oui, c'est même au cœur de l'accord entre socialistes et écologistes pendant les élections municipales. Alors pour l'instant, certaines installations ont été faites de façon un peu provisoire, juste pour être prêt à temps pour la rentrée, mais maintenant la mairie veut passer à des aménagements plus pérennes.
Ça va ressembler à quoi, Virginie ?
Il y a plein d'idées, comme par exemple enlever carrément le bitume pour faire des espaces verts devant certaines écoles, quand c'est possible. Planter des arbres pour que les enfants comprennent comment ça marche un arbre. Ils ne naissent pas grands comme des platanes de la cour d'école. Au départ, ils sont tout petits. Des agrès sportifs, des jeux, toutes les idées vont être soumises aux habitants dès cet automne.
Vous parlez d'abord des habitants de Paris, de Lyon, et puis ça va
essaimer. Concertation, effectivement, dans les quartiers où c'est réalisé.
Merci Virginie Salmen, le journal de l'environnement. On vous retrouve samedi prochain dans ce grand journal.
À la semaine prochaine.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h35, si vous nous rejoignez, voici Planète Sauvage. Et on va relever ce soir dans cette chronique que le plan de relance accompagnera aussi le bien-être animal. Le ministère de la Transition énergétique annonce une enveloppe de 250 millions d'euros, notamment pour favoriser les élevages en plein air et pour moderniser les abattoirs. C'est le combat de notre invitée. Bonsoir Caroline Brousseau.
Bonsoir Wendy, merci de nous donner la parole.
Merci, vous qui présidez l'AFAD, l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Cette annonce est-elle une première victoire pour vous, au sens où le gouvernement n'ignore donc pas ce sujet ?
Complètement. C'est certain qu'on est satisfait d'avoir été entendu sur certaines des propositions qu'on avait fait en amont de ce plan de relance pour pas que les abattoirs justement soient oubliés. Mmh. Et oui, c'est déjà bien. On souhaiterait toujours plus, mais c'est déjà bien. Et c'est vraiment une prise en compte d'un problème récurrent et qui existe depuis des années, cette question de la nécessaire modernisation des abattoirs. Oui.
Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, moderniser les abattoirs aujourd'hui, Caroline Brousseau ?
Alors, il y a deux choses déjà. On a noté dans le plan de relance et dans les éléments qui sont déjà communiqués par le gouvernement qu'il y aura un soutien assez important à porter aux outils de proximité, donc les petits abattoirs, et une mise aux normes des établissements. Donc, quand on parle de modernisation des abattoirs, pour la FAD, en tout cas, c'est avant tout mieux les emménager, renouveler le matériel, faire évoluer certaines pratiques d'abattage, mieux contrôler, ça c'est important, et aussi mieux former le personnel. Donc il y a vraiment tout un panel de mesures à mettre en œuvre pour garantir la protection animale, puisque là c'est notre sujet.
Bien sûr, vous soutenez, vous, depuis longtemps, ces structures de proximité, ces petits abattoirs qui réduisent de fait le temps de trajet aussi entre l'élevage et puis le lieu d'abattage.
Oui, complètement.
Mais il y en a très peu.
En fait, il y a une disparition des petits abattoirs de proximité et des petits abattoirs en général parce qu'ils ont des difficultés justement financières à se mettre aux normes. Il y a énormément de normes, il y a des travaux à effectuer, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc la plupart d'entre eux, malheureusement, ils disparaissent et petit à petit, la filière se concentre et il y a de moins en moins d'abattoirs et de plus en plus gros.
Vous faites du lobbying aussi avec l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité pour les abattoirs mobiles qui se déplaceraient directement chez l'éleveur. C'est une option aussi envisagée par le gouvernement, par le ministère ?
Complètement. En fait, on espère vraiment qu'une partie de cette enveloppe sera affectée à aider le financement de ce type de projet d'abattage à la ferme. Voilà, il y en a trois qui sont déjà bien avancés en Loire-Atlantique, en Côte d'Or et en Normandie. Et c'est vrai que la modernisation, c'est aussi repenser les modèles actuels et favoriser des modèles qui placent le respect des animaux au cœur de leur démarche. Donc, c'est vrai que ce serait bien que ces abattoirs mobiles puissent bénéficier aussi de cette enveloppe. Aujourd'hui, dans le détail, on ne sait pas encore.
Oui, dans le détail, on ne le sait pas, mais 250 millions d'euros sont sur la table pour moderniser les abattoirs, pour favoriser aussi les élevages en plein air. Une dernière question, Caroline Brousseau, sur la vidéosurveillance, pour faire la clarté justement sur les modes opératoires dans ces abattoirs. Le gouvernement pourrait-il être favorable ? C'était dans le rapport du député Olivier Falorni, ça avait été retoqué par le précédent gouvernement.
Oui, alors c'est vrai que sur la question du contrôle, quand même, je pense qu'il y a un accent qui va être mis. La première chose à faire, ce serait bien évidemment de favoriser le recrutement de vétérinaires avant de mettre des vidéos. Mais c'est vrai que le système de vidéos, je pense qu'on va y revenir, et notamment au poste d'abattage, parce que si les effectifs ne suivent pas, en fait, il n'y a pas de contrôle à ce poste-là qui est le plus délicat, en fait, et là où on a besoin de contrôle. Donc je pense que le gouvernement, oui, pourrait franchir une étape et aller vers le contrôle via les caméras. Oui.
Merci Caroline Brousseau, présidente de l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Et si on vous en parle, c'est que c'est aussi une des propositions de ce plan de relance pour le soutien de la condition animale.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Dans un instant, il est avec nous. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Une chanson dans la tête, il nous en a laissé quelques-unes, l'artiste dont vous nous parlez maintenant.
Évidemment, on va parler surtout de Grégory Le Marchal, qui est un immense artiste, une carrière bien trop courte. Et
honoré dans un téléfilm.
Très honoré prochainement, évidemment, et qui nous a quitté récemment.
Oui, honoré dans un téléfilm, ce sera demain sur TF1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. Europe 1, une chanson dans la tête.
Avec Fabien Lecoeuvre à 19h40, comme chaque samedi et chaque dimanche en direct sur Europe 1, après votre hommage hier à Annie Cordy, si précieuse, eh bien c'est une autre voix que vous honorez ce soir, dont le talent fut révélé par la Starac, Grégory Lemarchal.
Eh oui, Wendy, personne n'a oublié ce petit prince de la chanson emporté par la mucoviscidose à 23 ans en 2007 et gagnant bien sûr de la Starac. C'était le 22 décembre 2004. Et c'était déjà la quatrième saison à l'époque.
Ah oui, et beaucoup étaient devant leur écran à ce moment-là. Après 4 mois de télécrochet exceptionnel, victoire sur un titre emblématique, rapporté dans ce documentaire avec les commentaires de Nikos.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens?
Qu'est-ce qu'il allait offrir artistiquement? C'était son spectacle. C'était pas une finale seulement, c'était son tour d'honneur. Quoi. Voilà. Il a fait ses 4 mois, le gamin. Il est arrivé au bout du truc. Comment il va sortir? Il va sortir en ouais, bon, merci, j'ai gagné, ou il va sortir en je vais envoyer? Et la chanson de Beko est très emblématique. Et maintenant, que vais-je faire?
La voix de Grégory Lemarchal, fulgurante dans ce monde artistique et à qui TF1 donc, va consacrer un biopic. Ça commence demain, Fabien.
Exactement, Wendy. Ça commence tout à fait demain. Un téléfilm en 2 parties sur la vie de ce jeune chanteur fauché en pleine jeunesse. Alors, Pourquoi je vis, le titre donc de ce biopic est réalisé par Laurent Tuel, qui, vous savez, avait fait le film Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Fabrice Luchini. Voilà. Et dans le rôle de Grégory, un jeune acteur éblouissant et très ressemblant, Michael Lumière. Et ce sont Arnaud Ducret et Odile Wilmain, bien sûr, qui interpréteront les parents de Grégory. Alors Nikos Aliagas est le seul dans ce biopic à interpréter son propre rôle, puisque Karine Ferry, la fiancée de l'époque de Grégory, a refusé. Mmh. Alors, sans rien vous dévoiler, Wendy, le téléfilm débute lorsque les parents du jeune homme découvrent que leur fils est atteint de la mucoviscidose. Et ce téléfilm retrace finalement son parcours jusqu'à la célébrité grâce à sa participation à la Star Academy.
Oui, parce que c'est vraiment ce télécrochet qu'il a révélé au public, avec notamment sa reprise de SOS d'un terrien en détresse. Pascal Nègre lui-même dit ne jamais avoir entendu une telle voix depuis Daniel Balavoine. Écoutez Grégory Lemarchal.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau.
Si vous avez des frissons chez vous aussi, c'est normal. Hein, ça doit être incroyable.
Lors de la 4e saison de la Star Academy, dès le premier prime time, le 3 septembre 2004, la voix cristalline à 4 octaves de Grégory Lemarchal, interprétant bien sûr cette chanson, a véritablement impressionné le public et les téléspectateurs. Et pourtant, ce n'était pas sa première participation à un télécrochet, Wendy, puisque 5 ans auparavant, Grégory avait participé à un autre télécrochet, Graines de Star, on l'a oublié sur M6, où il avait interprété un autre titre de Daniel Balavoine, le chanteur.
Et partout dans la rue, on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elle m'ennuie, qu'elle me tue.
Il a 16 ans à l'époque, c'est incroyable comme sa voix est déjà forte, mais on le sent évidemment plus fragile. En tout cas, c'est ce concours Graines de Star qui lui permet d'acquérir déjà une petite notoriété, notamment dans sa région de Grenoble.
Et oui, il fait déjà si jeune, si talentueux les premières parties des spectacles de Gilbert Montagné ou d'Hervé Villard. Et lors de ma première rencontre avec Grégory Lemarchal, lui qui aimait tant cette chanson de Balavoine, je lui avais raconté ce que Balavoine m'avait confié un jour pour composer le chanteur, donc son premier succès. Balavoine s'est inspiré de du chanteur et de la chanson « Je me voyais déjà » de Charles Aznavour.
Ah, c'est vrai,
et Balavoine avait écrit tous les couplets en moins d'une heure pendant que ses musiciens étaient allés déjeuner un couscous dans un café à côté du sous-enregistrement. Ouais. Ce qui avait impressionné Grégory Lemarchal, qui
connaissait
pour
pas
lui, c'était fantastique, bien ouais, sûr.
Chef-d'œuvre, le chanteur. Après sa victoire à la Starac, nous sommes donc en 2004, Grégory a très vite enregistré son premier album.
Oui, après avoir remporté avec 80% des suffrages, c'est bien de le redire, la finale de la quatrième saison de la Star Academy, le 22 décembre 2004, le jeune Grégory Lemarchal commence à travailler sur son premier album avec le producteur Yvan Cassar, bien sûr. Plusieurs chansons sont proposées aux jeunes artistes qui vont retenir finalement que 12. Et parmi celles-ci figure l'adaptation française d'une chanson d'amour italienne composée par le napolitain Davide Esposito. Mmh. Et c'est sur son piano à Rome que Davide a créé justement cette ballade romantique dans la plus pure tradition italienne.
Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien.
Nous sommes en 2005 avec Écris l'histoire.
Et oui, le single sort donc un 29 mars 2005, trois semaines avant l'album. Dès le 2 avril 2005, la chanson se retrouve à la deuxième place des meilleures ventes de singles en France et y restera, tenez-vous bien, 5 semaines consécutives.
Il y a une association Grégory Lemarchal aujourd'hui qui recueille des dons pour accompagner les malades de la mucoviscidose, combat très fort. Donc Grégory n'a jamais fait un handicap. Jamais.
C'est vrai, Wendy, ce garçon a fait preuve d'une force de caractère exceptionnelle et sa passion pour la chanson l'a beaucoup aidé à surmonter les difficultés liées, bien sûr, à la maladie. Je me souviens d'avoir interviewé encore Grégory Lemarchal, c'était en 2006, quelques jours avant son passage sur la scène de l'Olympia, et il avait une telle joie de vivre qu'il était impossible d'imaginer que ce garçon finalement était malade.
Mais vraiment, et je vous encourage à aller revoir par exemple sur internet ce duo d'anthologie avec Patrick Bruel sur du Freddie Mercury. Et pourtant, la maladie le rattrape au moment où il prépare un second album.
Alors Wendy, après une dernière apparition à la télévision le 5 janvier 2007 pour la 100e de la Star Academy, de temps en temps, c'était cette chanson dont Grégory Lemarchal a écrit les paroles pour sa compagne, justement l'animatrice Karine Ferry. Et c'est vraiment la toute dernière qu'il a enregistrée chez lui en une seule prise, je précise.
Oui,
hein,
oui.
C'était le lundi 26 mars 2007. Et côté planning, le 30 mars, il est allé rejoindre justement Hélène Ségara à Plaisir, en région parisienne, sur la première date de sa tournée pour interpréter en duo avec elle Vivo Perlé, vous savez. Et malheureusement, bien sûr, quelques jours après, sa santé s'est détériorée. Il est hospitalisé d'urgence, nous sommes le 2 avril, et espère recevoir une greffe de poumon. Hélas, la greffe n'arrivera pas, et le 30 avril à 13h, Grégory est emporté quelques jours avant ses 24 ans des conséquences de la mucoviscidose.
Je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien, je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins.
Grégory Lemarchal, un talent exceptionnel, une voix exceptionnelle aussi. Tout cela sera au cœur du documentaire que lui consacre, du téléfilm que lui consacre TF1 demain et lundi prochain, 21h. Merci Fabien de nous avoir fait revivre le destin, hélas, trop court de ce grand chanteur, de ce grand artiste. On peut retrouver tout cela sur,
oui, sur le podcast, bien sûr, Europe 1, évidemment. Et la semaine prochaine, on parlera à l'occasion du 46e festival du film américain de Deauville, qui se clôture la semaine prochaine.
Oui.
On parlera de Vanessa Paradis.
Merci Fabien, merci, à la semaine prochaine et à tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.
Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.
Il est 19h53, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans ce grand journal et vous ne vous étiez peut-être jamais posé la question en ces termes, et si le télétravail notamment avait un coût, un impact sur l'environnement qu'on ne soupçonne pas. On écoute le monde changer, on s'interroge ensemble sur cette antenne avec vous. Audric Mazietti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous qui êtes enseignant-chercheur en psychologie, responsable Digital Learning de Lyon Business School. C'est un article cette semaine qui nous a fait réagir. Je vais être tout à fait transparente dans le Challenge, article dans lequel vous décrivez ce monde du travail de plus en plus immatériel, qu'on imagine peut-être meilleur, mais qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. On va y venir. Contrairement au discours répandu, Audric, le télétravail n'a pas été la solution écolo qui a tant été mise en avant.
Et non, ce télétravail, il a été déployé de manière massive, dans l'urgence,
Et on n'a pas eu le temps de penser les différentes solutions qu'on a utilisées et on s'est réfugié derrière un raccourci qui est que dans la mesure où on ne se déplace pas pour aller au travail, on ne pollue pas. Mmh. Or, ce n'est absolument pas vrai. Tout ce télétravail, toute cette informatique dans le cloud a un véritable coût écologique.
Que vous chiffrez d'ailleurs, hein, plusieurs exemples à l'appui. Alors, on sait par exemple qu'il faut vider régulièrement sa boîte mail. Et vous m'avez traumatisé avec ce chiffre. Un email stocké pendant un an a une empreinte carbone de 10 grammes de CO2. C'est un calcul qui nous ramène en 120 kilos de CO2 par an. Ça veut dire c'est l'équivalent, comment on peut le chiffrer en rapport?
C'est comme si on faisait 1000 kilomètres en voiture.
Voilà, ça vous donne une idée en un an, c'est quand même impressionnant. Sauf que cette société immatérielle nous échappe quelque part et nous paraît de fait plus propre.
Elle nous paraît propre effectivement parce qu'on est dans l'abstrait, parce qu'on est dans ce fameux cloud. Mais il ne faut pas oublier que tout ça a une existence dans des data centers qui consomment une énergie folle. Mmh. Et cette énergie, elle a été vraiment décuplée ces derniers temps.
Le télétravail, notons aussi qu'il a généré un flux vidéo sans précédent. Alors on a quitté la présence en physique, mais on s'est relié par des écrans interposés. Et là aussi, on a fait du mal à la planète sans le vouloir et sans le savoir.
Alors, on l'a fait avec le télétravail, effectivement, puisque faut savoir que le trafic vidéo, c'est environ 60% des émissions de CO2 qui sont dues au numérique. Et ce flux vidéo, cette pollution liée aux vidéos, a vraiment explosé. La visioconférence a été multipliée par 20 pendant le confinement et depuis, puisque le télétravail n'a jamais réellement cessé. Mmh. Et c'est un flux qu'il nous faut maîtriser.
Oui, vous ajoutez à cela, à côté de ces vidéos, ces visioconférences, des plateformes comme Netflix qui ont carburé aussi pendant le confinement.
Alors leur débit a totalement explosé puisque effectivement on est en télétravail, on reste chez soi, rien ne nous empêche de faire tourner Netflix. Je pense un petit peu à mes étudiants qui certainement font tourner Netflix en même temps que la visioconférence.
Oui.
On est sur des chiffres affolants.
Ce monde va vite, ce monde qui parle déjà de la 5G alors qu'il faudrait déjà se poser sur les conséquences actuelles de cette société du numérique pour vous, Audric Mazzietti.
C'est un petit peu le souci qu'on a, c'est comme tout cela a été fait dans l'urgence, on n'a pas réellement pris le temps de se poser pour non pas nous poser la question est-ce que le télétravail c'est bien ou mal, puisque c'est pas ça la question, mais vraiment pour repenser notre relation à cette technologie et essayer d'optimiser cette relation-là.
Oui, bien sûr, avec cette mémoire dématérialisée qui génère de la pollution, qui peut peut-être même conduire à une certaine implosion. Vous évoquiez ces data centers. Alors comment on raisonne cet investissement du numérique qui par ailleurs nous facilite la vie?
Ben, finalement, on peut faire de la même manière que ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, où on essaie de réduire nos déchets, ce qui va nous amener à repenser un petit peu nos habitudes de consommation. Mmh. Et ben, avec la technologie, ça va être un petit peu pareil. On va essayer d'optimiser notre fonctionnement pour réduire notre pollution. Et à terme, ça va nous aider à repenser notre relation à la technologie. Je pense notamment à d'autres problématiques que l'écologie numérique, hein, comme la déconnexion, par exemple.
Oui, ça veut dire que vous enjoignez aussi les entreprises, en dehors du fait qu'elles distribuent aujourd'hui des gobelets en carton, et bien, nous encouragent aussi à vider nos boîtes mail, avoir une très bonne connexion Wi-Fi, c'est tout cela dont il est question?
Tout à fait. Je pense un petit peu à ce salarié français qui fait l'effort de venir en vélo au travail tous les matins et qui, au final, fait 1000 km en voiture de pollution parce qu'il ne supprime pas ses mails, tout en étant de bonne foi parce qu'il n'est pas au courant de ces pratiques-là.
Donc les entreprises aussi doivent mettre pour vous les moyens de cette écologie numérique, Audric.
Elles ont un rôle à jouer.
Audric Mazzietti, enseignant, chercheur en psychologie, responsable digital learning de l'ESDES Lyon Business School. Merci de votre éclairage ce soir sur ce sujet. Vous êtes toujours avec nous et avant l'info de 20h, une petite mise en bouche avant son retour demain matin sur Europe 1 avec Julie Nicolas Coplou.
Selon un sondage IFOP rapporté par le Figaro, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est le favori des électeurs de droite pour 2022. Bonjour Édouard Philippe.
Oui, bonjour. Angelina Jolie, Julie.
Angelina Jolie. Oh,
bonjour,
mal.
Monsieur Mathieu Bouclard. Béliard, non, c'est à cause de vos cheveux. Vous devriez d'ailleurs venir au Havre, monsieur Béliard. C'est la dernière ville où des jeunes portent encore le bouc.
Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère s'ouvre donc aujourd'hui. Il fait le tour des médias pour en parler. On reçoit le président de l'époque, monsieur François Hollande. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis Charlie. Enfin, je suis François, bien sûr, mais je suis aussi Charlie.
Oui, ben on a compris.
C'est pas encore sur mon passeport, mais
c'est bon.
Je suis François Charlie.
Bon, oui, on a compris, c'est bon.
Oui, d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas arrivé, je tiens à le noter, sous le quinquennat, enfin le septennat à l'époque de Gérald de Gaulle, parce que si le grand Charles avait dit « Bonjour, je suis Charlie », ça aurait créé une forme de familiarité peu habituelle et un peu, peut-être, oui, disons-le, dérangeante. Disons-le.
Première tension au sein du nouveau gouvernement de Jean Castex. Éric Dupond-Moretti a réfuté le terme d'ensauvagement de la société utilisé par son collègue Gérald Darmanin. Et ça s'est passé sur notre antenne avec vous, Sonia Mabrouk.
C'est chez moi que ça s'est passé, chez Sonia. Et oui, c'est chez moi. Je peux vous dire que j'ai mis un beau bordel dans le gouvernement dès le 1er septembre. Et je ne suis pas peu fière, ma chère Julie. Non, pas peu fière.
Bonjour, c'est Jean-Pierre.
C'est Jean-Pierre, mais...
Eh ouais, c'est ma protégée, ma soso, ma gnagna, ma Sonia. C'est l'école Jean-Pierre Elkabbach. Une question, il fallait poser la bonne question. La question. Et là, on fout la merde au Conseil des ministres dès le premier jour de la rentrée. Bravo, ma soso, ma gnagna, ma Sonia.
C'est réussi, oui. Merci. Et on vous retrouve avec grand plaisir, Nicolas, 8h45 de la matinale de Mathieu Béliard. Merci.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Merci de nous avoir suivis. Rémi Duprat a réalisé cette émission. Naïma Bencheman, Valérie Danon m'ont aidé à la programmer. Fabien Lecoeuvre vous accompagne musicalement le samedi et le dimanche. On se retrouve la semaine prochaine.